Kid. Humanité. La persuasion. Le silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bonne fin d'après-midi. Grosse journée pour Donald Trump, vraiment. Il y avait deux affaires qui l'attendaient devant les tribunaux à ce beau lundi 25 mars. D'abord, il fallait qu'il trouve son 464 millions, hein, ce qui lui avait été imposé comme charge par le juge dans l'État de New York. Mais ça, il a gagné. Mais il a gagné. Façon de parler. C'est réduit à 175 millions, puis ça a l'air qu'il l'a, le 175 millions. Fait que ça viendrait de régler son problème. Donc, on a diminué une cour tribunal d'appel qui a réduit le montant. Donc, il pourrait, avec 75 millions, enclencher le processus d'appel, parce qu'évidemment, il veut aller en appel dans ce procès-là. Mais, par contre, dans l'autre procès, pour lequel, encore aujourd'hui, il devait se présenter devant la cour, celui-là, celui de Stormy Daniels, le geste criminel qui aurait été le fait de falsifier les documents, d'utiliser des fonds électoraux pour payer une actrice de film porno, une ex-actrice de film porno avec laquelle il y avait eu une aventure pour lui demander de se taire. Ça n'a pas marché en passant, elle a dit trop, elle a dit beaucoup, elle a dit des choses horribles sur M. Trump personnellement, même physiquement. Et tout ça pour dire que le tribunal là a pas vraiment donné à M. Trump le genre de délai qu'il espérait, parce que lui, il veut que le maximum de procédure soit remise après les élections, ça va de soi. Et là, non. 15 avril, on se revoit, on va commencer à choisir le jury. Donc, le procès dans le dossier Stormy Daniels, visiblement, va avoir lieu avant les élections. Donc, victoire pour Donald Trump pour ce qui est de faire réduire le montant dans un dossier. Par contre, défaite dans l'autre dossier où il va devoir faire face à la justice dans 3 semaines.
Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
Québec solidaire qui a martelé vraiment là, depuis quelques semaines tous les enjeux, tous les arguments sur les dossiers de défense des locataires. Et c'est un peu connu, bon, il y a eu l'étude d'un projet de loi à l'Assemblée nationale, ils le font à la période des questions, mais c'est un peu connu son apogée hier, alors qu'ils avaient réuni, dans l'Est de Montréal, là, ils avaient réuni vraiment là des locataires dans une assemblée d'information, mais qui a un peu viré en assemblée politique. Avec nous pour en parler, Andrés Fontecilla, député solidaire de Laurier-Dorion, bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Ouais, c'est un dossier que vous avez pris à bras-le-corps, le dossier des locataires.
Tout à fait, c'est un dossier qui me tient à cœur, mais surtout c'est un dossier qui concerne un très grand nombre de personnes, une bonne partie de la population québécoise là, qui rencontre des problèmes grandissants dans cette crise du logement et qui subissent des abus répétés. Il y a vraiment plusieurs symptômes, une épidémie d'éviction, des hausses généralisées des loyers, etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut prendre à bras le corps et j'incite beaucoup le gouvernement à prendre une action décidée en cette matière.
Ouais. Mais en matière d'éviction, la loi qui a été adoptée, je sais que vous avez beaucoup critiqué Mme Duranceau, mais la loi qui a été adoptée, là, elle resserre les critères en matière d'éviction.
Il y a une petite avancée, c'est-à-dire les fardeaux de la preuve pour contester une éviction ne portera plus sur les dos les épaules des locataires, mais ça va être au propriétaire de justifier devant le tribunal administratif du logement les bien fondés de sa volonté d'évincer un locataire.
Ouais. C'est quand même une grosse différence. Là, on inverse le fardeau de preuve. Et en cas d'éviction, on doit le dédommager davantage. On a aussi les dédommagements. Où est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Là, parce que quand même, vous recevez beaucoup de plaintes des citoyens, vous recevez beaucoup de dossiers à vos bureaux de comté. Je dis vous, mais les autres députés de Québec solidaire là, qui sont quand même dans le même secteur de Montréal où il y a beaucoup, beaucoup de locataires. Si vous aviez à nous nommer les 2-3 plaintes qui reviennent à répétition...
Écoutez, les deux, trois plaintes qui reviennent à répétition, c'est tout d'abord la multiplication des avis d'éviction, souvent accompagnée des pratiques très insistantes qui frôlent ou qui tombent carrément dans l'intimidation, et d'autre part, les augmentations abusives des loyers. Et si vous permettez, j'en ajoute un troisième, la très grande méconnaissance de la part des locataires de leurs droits et responsabilités. Ils se font beaucoup, beaucoup abuser. C'est un peu l'objectif de notre assemblée qui a réuni quelques 300 personnes dans un sous-sol d'église. Là. C'était beaucoup d'informer les locataires sur leurs droits et aussi sur leurs obligations, mais afin de prévenir et de les informer sur les recours qu'ils ont à leur disposition pour se défendre.
Quand vous dites beaucoup d'évictions, mais la loi est quand même assez sévère. Donc, pour faire une éviction, il faut avoir une raison. Soit on fait rentrer, là, ce qui est quelques cas, on fait rentrer un membre proche de sa famille ou soi-même sa propre famille, on veut utiliser le logement. Mais dans la plupart des cas, c'est parce qu'on dit vouloir rénover le logement. Quand vous parlez là, d'arnaque, parce qu'en soi, le parc immobilier il fait dur à Montréal, ça se peut qu'il y ait beaucoup de logements à rénover, mais vous observez beaucoup de cas où on utilise de fausses raisons, on dit vouloir rénover, mais on rénove pas vraiment, ou que c'est un mensonge?
Tout à fait. Ça existe et c'est couramment et c'est abondamment documenté, c'est-à-dire les propriétaires qui évincent pour faire supposément des rénovations et ces rénovations ne sont jamais effectuées, d'où notre proposition d'avoir au tribunal administratif du logement létal une procédure de vérification afin de certifier que les travaux de rénovation ont été réellement réalisés. Donc c'est une des mesures qu'on met de l'avant là, pour mieux protéger les locataires.
Vous voulez dire qu'on fait l'éviction, on laisse le logement vacant pendant quelques mois, on augmente le prix, on reloue le même logement pas rénové à quelqu'un d'autre à un prix rehaussé, donc un mensonge sur toute la ligne. C'est-à-dire on a évincé sous la base de rénovation, on a haussé le tarif pour un prochain loyer sur la base de rénovation, puis il n'y a pas de rénovation de fait.
Tout à fait. Ça, c'est dans les cas des évictions, comment dire, à caractère frauduleux. Mais il existe aussi la procédure légale, c'est-à-dire on fait quelques rénovations et on met à la porte des locataires qui, en général, et c'est surtout les locataires qui payent, qui restent qui demeurent depuis longtemps dans leur logement, donc qui payent des loyers plus bas qu'ils marchaient.
Trop bas, là, plus bas que
les principales, ouais. Disons, les principales proies pour effectuer des travaux et mettre ces gens à la rue et rénover de fond en comble et monter de beaucoup, beaucoup les loyers. Moi, je suis convaincu qu'on pourrait rénover notre parc locatif sans nécessairement avoir besoin de mettre des gens à la rue.
Ouais. Monsieur Bontessia, évidemment, si vous prenez la part des locataires, mais on est dans une crise du logement, si on appliquait demain matin, Québec solidaire gouverne et applique tous ces règlements, là, toutes ces lois plus sévères que vous voulez, est-ce qu'il n'y aurait pas un danger là, à l'autre extrême? On dit, OK, on a un gouvernement pro-locataire, anti-propriétaire, mais là, si on veut construire des logements, parce que la crise du logement, avant les lois puis avant les règlements, la première cause, c'est qu'il manque de logements. Là, cette compétition folle pour les mêmes logements, c'est parce qu'il en manque. Est-ce qu'un parti anti-propriétaire qui pourrait décourager la construction de logements va vraiment être la solution à la crise du logement?
Tout d'abord, Monsieur Dumont, moi, je ne pense pas être anti-propriétaire. Je pense que je suis anti-pratique déloyale, des pratiques abusives de la part de certains propriétaires spéculateurs. C'est loin d'être la grande majorité des propriétaires qui sont déjà honnêtes. Il y a aussi de très grosses compagnies pour qui l'essor des locataires, bon, mais c'est les locataires, c'est un client, c'est un produit financier, c'est une marchandise. Donc, mais la très grande majorité des propriétaires, surtout les propriétaires occupants, là, c'est des gens tout à fait correct. Mais vous avez raison, il faut construire davantage de logements. Vous savez, M. Dumont, il s'en construit quand même beaucoup de logements dans le secteur locatif en particulier, mais c'est du logement haut de gamme qui coûte très cher pour y rester. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il faut vraiment 2020, trouver la formule.
Ouais. Mais en 2023, il s'en est pas construit beaucoup. Là. C'est une année...
Il s'en construit moins. Je suis tout à fait d'accord avec vraiment, vous, mais ouais. Il s'en construit encore. Si vous vous promenez dans les grands centres urbains, il s'en construit encore, mais c'est du logement qui coûte très cher pour les communs des mortels. Et c'est donc vers les ménages qui gagnent moins d'argent qu'il faut absolument cibler comme secteur pour lequel il faut construire davantage de logements. Et selon moi, c'est en constituant un secteur hors marché. Donc des coopératives d'habitation, des OSBL d'habitation, donner la permission aux offices d'habitation du Québec de construire davantage d'HLM, c'est là que les priorités du gouvernement devraient aller.
Donc pour vous, la construction de logements supplémentaires, c'est du logement social à la charge avant du gouvernement, ou partiellement à la charge du gouvernement, là?
Il faut évidemment, et on a fait des propositions dans ce sens, d'inciter davantage de construction, par exemple, par une abolition de la TVQ pour faciliter et rendre moins cher la construction des logements, qu'ils soient privés ou hors marché du logement social. Il faut aussi trouver des formules pour construire aussi du logement privé, mais l'action de l'État, avant tout, lorsqu'il met ses billes, lorsqu'il investit, il devrait surtout pour construire du logement social.
Andrés Fontecilla, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir.
Je vous remercie. Bonne journée.
La fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon. Là.
Marie, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Bonjour Marie, bon lundi. On va se parler des médecins de famille. On dit 2,3 millions de Québécois qui n'en ont pas. Bon, il y en a 900 000 là-dessus qui n'en cherchent pas. Là. C'était mon cas. Moi, je me souviens quand j'avais entre 18 et 20 ans, là, j'étais étudiant, je n'avais pas de médecin de famille puis j'en cherchais pas vraiment. Mais il y en a 1,4 million de Québécois qui, de façon active, là, sont inscrits sur une liste d'attente, voudraient un médecin de famille. Et on va pas dans le bon sens parce qu'il y a plus de médecins qui prennent leur retraite présentement qu'il y en a de nouveaux qui prennent en charge des patients, là.
Oh non, c'est Mario. Honnêtement, je trouve ça extrêmement préoccupant parce que bon, tu sais, on se dit à chaque année, c'est un peu des nouvelles qui reviennent. Tu sais, la nouvelle de des places en médecine familiale en résidence là, qui tu sais, les étudiants qui veulent pas aller en médecine familiale. Année après année, là, on sait, il y a plusieurs centaines de places qui sont pas comblées.
Dans les cinq dernières années. Il y a 600 places de stage en médecine familiale qui sont restées vacantes. Donc, on aurait pu avoir 600 médecins de famille de plus, là.
Ben, 600 médecins de famille de plus, exactement. Puis, tu sais, c'est toutes des nouvelles qui reviennent. Puis, on finit par... On dirait presque que ça finit par être, tu sais, la normalité, là. Mais il y a quelque chose de super préoccupant parce que les 600 médecins de famille, là, qu'on aurait pu avoir de plus, tu sais, faut comprendre que c'est des projections qui sont faites, là. Quand le ministère, là, s'assoit avec la FMOQ, les universités, puis là, c'est une espèce de projection mathématique où ils se disent, bon, combien on a de médecins de famille qui ont plus de 60 ans? Là, il y a 25% des médecins de famille qui ont plus de 60 ans. Combien il y en a qui, tu sais, qu'on peut penser qu'ils vont prendre leur retraite, qu'ils vont quitter? Donc, on en a besoin de combien? Donc, s'il y en a un qui sort, il faut qu'il y en ait un qui rentre. Donc, quand tu en as 600 qui ne rentrent pas, ben c'est fois, tu sais, 1000 patients chacun. C'est vraiment des milliers de Québécois qui devraient être pris en charge, qu'ils ne sont pas. Puis là, il y a comme une espèce de tempête parfaite aussi où justement, tu as des médecins de famille qui prennent leur retraite de plus en plus tôt, qui sont vieillissants, comme la population est vieillissante aussi. Tu as une population qui a des besoins de plus en plus lourds parce que, comme tu dis, ben quand tu es jeune, non seulement tu n'as pas besoin de médecin de famille, mais si tu vas le voir, tu vas le voir parce que tu as une petite patente à gosse, tu sais, c'est une consultation de 10 minutes, merci, bonsoir, c'est terminé. C'est sûr que quand tu as 85 ans, puis là, tu arrives avec ta liste de petits bobos, c'est un peu plus compliqué, puis là, les médicaments, il faut qu'ils soient ajustés, puis il faut que tu revoies, le médecin a besoin de les revoir plusieurs fois, c'est des pratiques qui sont plus lourdes. Puis t'ajoutes à ça un phénomène qui est typique au Québec, qui n'existe pas du tout dans le reste du Canada, c'est l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle pour le privé. Puis ça, c'est très préoccupant aussi parce qu'à l'heure actuelle, t'as presque 5% des médecins de famille qui vont vers le privé. Puis là, c'est vraiment en hausse. Puis quand je dis que ça n'existe pas dans le reste du Canada, l'Ontario a légiféré, Mario, il y a 30 ans déjà pour interdire aux médecins de famille d'aller vers le privé. Là, ici, il y a un phénomène qui s'accélère parce que quand tu vas dans le privé, ben généralement, tu sais, pour un médecin, c'est un peu intéressant parce que tu prends les patients que tu veux. C'est des patients qui généralement ont les moyens, donc généralement qui sont moins malades aussi. Tu sais, qui viennent te voir pour faire un petit check-up annuel ou qui te viennent te voir pour une affaire bien précise qui rentre, qui sort. T'as pas de prise en charge en faire. Tu élimines toutes les contraintes parce qu'il y a beaucoup de contraintes pour les médecins de famille en termes de pratique où ils peuvent pas s'installer où ils veulent. Hein. En public, t'as un certain nombre de places à Montréal à chaque année, un certain nombre de places à Montérégie. Tu sais, chaque région a un nombre de places maximale. Puis si tu n'arrives pas à rentrer dans ces places-là, ben ça se peut que tu te ramasses à Ungava ou en Abitibi ou dans une région où tu veux pas aller. Puis pendant que tu sais, ton conjoint est médecin spécialiste puis tu es à Montréal, ça, c'est des cas classiques. Donc, la voie du privé devient intéressante pour ça. Tu n'as pas de contraintes sur ta pratique. Tu n'es pas obligé d'aller dans des CHSLD. Tu n'es pas obligé de faire tu sais, des pratiques qui sont plus lourdes. Donc, tout ça fait que je ne vois pas, moi, la lumière au bout du tunnel pour améliorer cet accès aux médecins de famille-là si le ministre prend pas des espèces de mesures hyper, hyper dures. Là.
Mais, en fait, ce que je comprends, c'est que tous les partis, à un point ou à un autre, là, durant la décennie, mettons, entre 2005, 2010, puis 2015, là, 2018, tous les partis politiques nous ont promis à un moment ou à un autre que chaque Québécois aura son médecin de famille. Puis là, ben, tout le monde nous dit aujourd'hui, ouais, ça sera pas réaliste, là. C'est de voir c'est quoi. Tu sais, on est beaucoup plus maintenant dans la recherche de comment on pourrait donner accès aux gens à un médecin lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est ça, la... Mais là, comment on fait, tu sais, le petit piton reset, là, comment... Parce que la population, elle est encore dans la promesse, là. Tu sais, mon médecin prend sa retraite, j'ai le droit à un médecin de famille. Les gens s'attendent encore qu'ils vont avoir chacun un médecin de famille. Alors, quand tu regardes ça, qu'il y a 1,4 million qui n'ont pas, il y a plein de médecins, comme tu l'as dit, 25% des médecins ont 60 ans et plus. Fait que, tu sais, on va en perdre plus.
Il y a encore
plus
de la marge, Mario. Il y a de la marge. Tu sais, j'étais avec des amis cette fin de semaine, puis on jasait de plein d'affaires, puis à un moment donné, on est tombé sur la question de l'accès aux professionnels puis des assurances. Puis tu vois, sur le groupe, il y en avait encore trois qui me disaient, par exemple, ben dans leurs assurances, si tu veux, pour aller voir un massothérapeute ou pour aller voir un psychologue, sont obligés d'aller chercher une requête d'un médecin de famille. C'est
sinon l'assurance payera pas, là.
Ben oui, parce qu'ils ont peur qu'il y ait de l'abus, parce qu'évidemment, les gens abusent d'aller voir un psychologue, tu sais, tu fais ça pour le fun, tu sais. Donc, t'es obligé d'aller embourber, d'aller voir un médecin de famille qui devrait être en train de voir quelqu'un, de traiter quelqu'un, puis t'as plein d'assureurs pour lesquels c'est comme ça. Donc, quand j'entends les médecins de famille dire « on a 25% de notre tâche où c'est de la bureaucratie, c'est de la paperasserie, c'est des affaires qui ont aucune valeur ajoutée dans le réseau de la santé », ben c'est ce genre d'exemple-là. Donc, il y a encore beaucoup de marge. Puis, tu sais, c'est fait au compte-goutte. C'est lent la façon qu'on arrive à libérer. Ce genre d'enjeu-là, ça ferait vraiment une réelle différence. De la même façon que tu as des gens qui n'ont pas besoin de voir un médecin de famille, qui auraient besoin de voir un kinésiologue, un physiothérapeute, un psychologue, un optométriste, ils vont pas parce que c'est payant, puis ils vont aller voir le médecin de famille. Tu sais, ces enjeux-là sont connus, mais c'est tellement long à régler.
Ce matin, le docteur Amiot, des médecins, des praticiens, le président de la FEDE, me disait quand même que c'est très variable d'une région à l'autre seule. Parce qu'il dit l'objectif, par exemple, du guichet d'accès à la première ligne, c'était 50% des gens vont voir un médecin, puis l'autre 50% vont voir un autre professionnel. Pas vont pas être soignés, là, mais vont voir peut-être directement un physiothérapeute si c'est un problème là, musculaire ou squelettique, ou voir directement une infirmière, là, une super infirmière. Une infirmière praticienne, il semble que ça se produit pas dans certaines régions parce qu'on n'a pas les spécialistes, on n'a pas la disponibilité. Fait que dans certaines régions, on a préconisé ce modèle de faire voir le meilleur professionnel disponible, mais dans les faits, la très grande majorité des gens finissent chez un docteur comme dans le bon vieux temps parce que les autres professionnels sont soit pas impliqués dans le système, pas disponibles. C'est quelque chose à mettre en place ça aussi, là.
Mais il y a beaucoup de silos encore, il y a pas de fluidité, mais tu sais, quand j'entends Dr. Amiot faire ses entrevues, puis je le vise pas personnellement parce que il tient le même discours que le président de la FMOQ avant lui tenait, qui tenait le même discours que l'autre président de la FMOQ avant lui tenait, puis on est toujours dans une espèce de discours, faut valoriser la médecine familiale. Alors, j'ai entendu ça toute la journée, moi, aujourd'hui. Faut valoriser la médecine familiale.
C'est pas une façon polie de dire que les spécialistes sont trop payés. Des fois, quand j'entends valoriser la médecine familiale, j'entends un peu ça, là.
J'ai commencé à travailler dans le réseau de la santé. C'était ma première job, 2003, il y a 20 ans. Écoute, on avait mis en place un comité sur, tiens-toi bien, la valorisation de la médecine familiale. Et qui en faisait partie? La FMOQ, la FMRQ, la CREPUC, les universités, le ministère. Il y en a eu, je sais plus combien, des comités pour valoriser la médecine familiale. Mais ça, à un moment donné, ça fait comme juste plus rien dire. Tu sais, les salaires ont été augmentés. Est-ce qu'ils doivent être augmentés encore pour être plus proche d'un spécialiste? Peut-être. Mais ça reste que les résidents, les étudiants en médecine, quand ils vont faire un stage, puis qu'ils regardent le médecin de famille est en train de faire de la paperasserie, puis rencontrer des patients, c'est que c'est ça qui est pas valorisant. Quand tu dis, moi, je veux faire de la médecine, je veux traiter du monde, puis finalement, ce que je fais, c'est remplir des formulaires, puis mettre ça dans des fax, dans un réseau qui est pas informatisé. Ah, puis tu sais, ça, autre affaire aussi, le côté informatique dans les CLSC, puis les dossiers de médecins de famille, il me dit, Marie, si tu voyais le nombre de fois que ça plante dans une journée puis qu'on est tout le temps en train de se battre avec ça, c'est ça qui devient usant. C'est sûr que quand tu as un étudiant en médecine puis tu regardes ça puis tu dis, j'ai-tu envie de faire ça pour les 50 prochaines années de ma vie? Moyen, tu sais. Donc, il y a comme ces éléments-là, je trouve, auxquels on s'attaque jamais puis qui sont somme toute assez connus, tu sais.
Ouais, ouais. En tout cas, moi, j'ai plus de médecin de famille depuis longtemps. Là, moi, je suis dans une clinique privée, mais là, même là, le médecin a quitté celle que j'avais. Oui. Fait que, non, mais tu sais, c'est pas simple. Parce que tu disais, les médecins privés, c'est sûr qu'ils choisissent leur pratique. En même temps, ils soignent des patients, là. Je veux dire, moi, ma famille, mettons, ben, si on va au privé, on s'enlève. On n'est plus à la recherche d'un médecin de famille, on s'enlève. Mais même là, tu le perds. Même là, ils s'en vont ailleurs. Mais
c'est une question d'accès. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer. Puis, tu sais, je sais que là, l'échelle est super grande. Mais je regardais, il y a quand même, dans certains cas, ça coûte 1 000 $ faire un bilan, un check-up, là, comme on dit, un bilan annuel. Mais tu sais, l'enjeu là-dessus, moi, Mario, il y a un truc dans le réseau de la santé qui m'a toujours guidée. On m'avait raconté une histoire. Tu sais, avant, on a tendance à penser que ça a toujours été gratuit puis que la RAMQ, ça a toujours été là. Mais c'est un enseignant qui m'avait raconté à un moment donné, il lui manquait un pouce. Okay? Puis je te raconte très brièvement l'histoire, puis qui me disait justement, elle s'était blessée. Il était allé voir le médecin à l'époque où ça coûtait, je sais pas, 25 $, aller voir un médecin ou 5 $, je sais plus combien c'était. Il avait fait un garrot, puis pendant trois jours, ça a été douloureux, mais ses parents le prof était petit, puis ses parents lui disaient, écoute, on va attendre, parce que comme il y a un frais à l'entrée, ben, tu te dis, on va essayer de pas leur payer, puis finalement, ben, écoute, il y a eu de la gangrène, puis il a perdu son dos. Donc, ça m'a toujours un peu gouverné sur le fait que il y a un risque quand tu mets un frein à l'entrée, qu'il soit financier ou qu'il soit autre. Puis là, on est dans une autre sorte de frein.
Le frein, c'est l'attente. C'est ça qui est
devenu le frein. L'attente. Il y a plein de gens qui trippent pas, de toute façon, en plus de ça, à aller voir un médecin. On en a déjà parlé. Il y a plein d'hommes qui se disent, bon, écoute, tu sais, si je peux ne pas y aller, si je suis pas obligée, je vais attendre. Ça peut devenir une excuse aussi de pas y aller. Puis, dans un contexte de vieillissement de la population, dans un contexte, il y a plein de maladies chroniques, tu sais, ça peut faire ça comme différence aussi, l'accès. C'est que finalement, même pour l'État, ça finit par coûter plus cher parce que c'est des maladies qui sont prises en charge beaucoup plus tard, des cancers qui sont pris en charge plus tard. Donc, ça devient plus coûteux aussi. Donc, ça crée plein d'autres problèmes que juste de dire, ah, ben, j'ai pas de médecin de famille, ben, c'est donc ben plate, tu sais.
Marie, merci beaucoup. Bye bye.
À demain, Mario.
Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
On revient sur les funérailles, mais vraiment sur presque une phrase ou un paragraphe de l'allocution de Caroline Mulroney aux funérailles de M. Mulroney, dans lequel elle a dit essentiellement que, bon, pour son père, qui était profondément québécois, le caractère distinct du Québec faisait partie des facteurs d'unité du Canada. Puis je vais vous dire, j'ai pensé que c'était une référence directement dans son allocution à l'accord du lac Meech, parce que c'était une des clés de l'accord du lac Meech, société distincte. Puis après ça, je me suis dit, mais monsieur, on n'entend plus parler beaucoup de ça. Puis est-ce qu'un politicien au Canada, en 2024, pourrait encore parler de ça, le caractère distinct du Québec? Qui peut nous parler de ça? Celui qui a écrit un livre sur l'accord du lac Meech, je l'avais décortiqué, étudié, qu'est-ce qu'il représentait pour le Québec, le Canada, Christian Dufour, bonjour.
Bonjour, Mario.
Ça,
Ça te rappelle des souvenirs aussi, l'accord du Lac-Mitch?
Moi, je suis entré en politique, l'accord du Lac-Mitch était signé, mais pas adopté par les parlements. Là. J'étais vraiment dans l'entre-deux. Mais le caractère distinct du Québec, c'était au cœur de l'accord, puis on discutait de ça publiquement, là.
Oui, puis tu dis que plus personne n'en parle. Moi, je viens de sortir un livre là, qui s'appelle « Plus que jamais la liberté » où j'ai un chapitre sur pourquoi le Québec a échoué et un autre sur le pouvoir québécois où j'en parle de la société distincte. Je dis qu'il faut pas oublier ça, il faut revenir avec ça parce que ça correspond à la réalité. Donc, j'étais très content et ému, en fait, d'entendre Caroline Mulroney. C'était très impressionnant, en fait, son allocution. Elle avait beaucoup de classe. Moi, ce à quoi j'ai pensé, là, puis je me censurerai pas, d'abord, c'est qu'elle parle un français pas mal meilleur que Justin Trudeau. Hein? Le fils de l'autre, là. Hein? Elle, là, c'est un français parfait. Et ça me rappelait aussi les funérailles de Pierre-Éliott Trudeau. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. En Colombie-Britannique, il y avait eu un Justin Trudeau. C'est là qu'on l'avait découvert. Puis lui aussi avait parlé de l'accord du Lac-Mitch. Puis moi, ça m'avait choqué parce qu'un événement comme ça, normalement, c'est
parce
un événement...
Parce que Pierre-Éliott Trudeau, on peut te dire, c'est le fossoyeur de l'accord du Lac-Mitch.
Ben oui, c'est sûr. Il est sorti spécifiquement de sa retraite. Moi, je lui pardonnerai jamais.
Pour torpiller l'accord.
Pour torpiller l'accord. Alors que l'accord respectait l'héritage de Pierre-Éliott Trudeau. Mais il amendait l'héritage pour insérer le Québec dans l'affaire. Donc moi, ça, je trouve que c'est impardonnable et c'était très malsain quelque part. C'est comme s'il voulait avoir raison à tout prix, à tout prix, à tout prix. Il est sorti de l'accord pour tuer l'accord du Lac-Mitch. Bon, pour Brian Mulroney, on le sait, ça a été le drame de sa vie. Parce qu'il a réussi beaucoup de choses. Par ailleurs, Brian Mulroney...
Hein, mais pas ça.
Pas ça. Puis je pense que c'était peut-être ça qui était le plus important.
Il reste que, tu sais, institutionnellement, c'est un peu ridicule. T'as un accord qui a été signé par 10 premiers ministres, mais il y a cette règle-là, les parlements ont 3 ans. Puis là, t'avais 8 parlements sur 10, dont tous les plus gros du pays qui l'avaient adopté. Puis là, il restait le Manitoba puis Terre-Neuve. Puis là, finalement, c'est à ces deux parlements-là. Au Manitoba, un autochtone l'a bloqué. À Terre-Neuve, ben là, c'est l'ami de Pierre-Éliott Trudeau qui l'a bloqué. Deux petites provinces, à minuit moins une, qui sont venues faire foirer une transformation du Canada qui avait été agréée, réfléchie et agrêlée. Il y avait quelque chose de terrible.
Là. De terrible, de tragique là-dedans. Puis surtout qu'on s'est déculpabilisé en s'appuyant sur l'autochtone, hein, en disant, bon, c'est bien beau le Québec, mais aussi les autochtones. Donc, au funérailles de Pierre-Éliott Trudeau, son fils Justin, puis c'est là que moi, je l'avais vraiment découvert. On avait fait comme un événement un peu politique en disant de façon posthume, puis il est sorti justement pour s'attaquer à l'accord du Lac-Mitch qui était très très mauvais pour le Canada. Donc je suis content que tu m'aies invité parce que non seulement c'était très classe l'allocution de Caroline Mulroney, mais elle n'a pas fait un événement politique comme Justin Trudeau. Je suis dur là, mais on dit ce qu'on pense. Justin Trudeau avait fait un événement politique des funérailles de son père, mais elle a quand même rappelé à quel point pour son père c'est important. Puis moi j'ai trouvé que lorsqu'elle a rappelé que son père, pour lui, le Québec, il n'a jamais pensé quitter le Québec comme le reste de la famille, parce qu'elle a avoué que le reste de la famille
surtout
est rendu
ailleurs.
Bon, puis tu as senti son émotion. À quel point Mulroney, c'est un Québécois. Mulroney, c'est un Québécois, c'est un Anglo-Québécois, c'est un Canadien, et puis c'est une tragédie, en fait, son destin à cause de ça, puis aussi c'est une tragédie pour le Canada et pour le Québec, parce que on vit les conséquences de ça encore. Là.
Christian, le Canada 2024, là... Ouais. Le politicien fédéral là, qui prend ça en dessous de son bras comme petite mallette puis qui dit « Moi, je m'en vais vendre ça, là, le Québec société distincte », c'est un suicide. C'est comme si la conception du Canada... Puis même, j'écoute, tu vas dire, je vais loin, mais l'hymne national en Punjabi à Winnipeg, mais les gens là-bas disent « Ben voyons, le français, personne ne parle... » Il y a plus de gens qui parlent Punjabi à Winnipeg que le français, il y a plus de gens qui parlent chinois à Toronto que le français. Fait que c'est comme si toute cette notion que le Québec est un des deux peuples fondateurs, qu'il y a une culture à protéger, c'est devenu extraterrestre dans une partie du Canada. Ouais. Est-ce que j'exagère ou...
Ben, t'exagères pas, mais en même temps, la réalité a ses droits, et puis c'est quelque chose qui n'est pas bidon, c'est bien le fait que le Québec est une société distincte au sein du Canada. C'est une réalité. La réalité a ses droits et l'espèce de multiculturalisme sans limite, c'est l'envers de l'incapacité du Canada à assumer la différence québécoise. On est prêt à reconnaître toutes les différences de la galaxie de façon très inauthentique, sauf la principale, la différence québécoise. Ce qui peut donner de l'espoir, parce qu'il faut toujours garder l'espoir, hein, la vie comme la politique est faite de choses qui ne devaient pas arriver, qui arrivent souvent, c'est que l'envers de cette folie-là, entre autres l'immigration sans limite, Hein, y a pas de limite. Ça cause de plus en plus de problèmes dans le reste du Canada aussi. On le voit que l'opinion publique dans le reste du Canada a changé en ce qui a trait à l'immigration sans limite, en disant c'est trop, là, c'est exagéré, ça a des conséquences négatives sur le logement. C'est pas juste le Québec, en fait, là-dedans. Et par rapport à la société distincte, il y a des juristes, moi, des constitutionnalistes, pardon, moi, j'en suis pas un, qui prétendent qu'on pourrait constitutionnaliser ça avec par un simple accord bilatéral, qu'on n'aurait pas besoin d'avoir l'accord de toutes les provinces. C'est clair que le gouvernement fédéral en attente, c'est-à-dire le parti de Pierre Poilievre, hein, il y a beaucoup de chances que ce soit lui qui prenne le pouvoir, ça s'aventure pas sur ces territoires-là, ni sur les territoires
tellement... Lui, il se contente de dire qu'il n'y aura plus d'ingérence dans les pouvoirs du Québec, comme le fait le gouvernement actuel, mais il n'est pas dans la réconciliation.
Puis... Non, puis il n'est même pas tellement dans l'identité, puis dans l'immigration. Il l'a été un petit peu récemment, mais je pense qu'il ne veut pas prendre de risques. Il sait bien que ça peut causer des problèmes. Il est plutôt, lui, dans l'inflation, puis dans le niveau de vie, puis ce genre de choses-là. Mais il reste que c'est quand même un francophone hors Québec. Donc, moi, dans le livre, écoute, moi, je suis venu à revenir avec ça, parce que c'est bien beau, le désespoir de beaucoup de Québécois hein, qui rêvent en indépendance. Moi, je prétends que l'indépendance, je ne dis pas que le Québec sera jamais indépendant, là, parce qu'encore là, on ne connaît pas l'avenir, mais avec la mentalité que les Québécois actuellement, je trouve ça une chimère. C'est facile de dire oui à un sondage sur la souveraineté, mais il faut être fort pour faire l'indépendance, je ne vois pas cette force-là. Donc la société distincte est encore importante. La critique, les pressions sur le fédéral, d'abord dans le domaine de l'immigration, qui commence à porter fruit un peu quand même, en disant, écoutez, c'est bien beau le délire, là, mais il faut avoir des limites quand même, le Québec existe. Là. Je veux dire, c'est comme une espèce de rapport de Durham phase 2, là. Cette espèce c'est un bar ouvert, tout le monde peut rentrer au pays. On a réussi à faire fermer le chemin Roxham, puis ça c'est un succès québécois. Quand même,
ouais. Hein? Attends, on a fait mais évidemment, ça a déplacé le problème vers les aéroports.
Oui, ouais, mais c'est pas pareil, Mario. Là. Justement, Roxham, c'est une honte, c'est un cancer. Moi, je suis très content de ça. Là, on impose des visas aux Mexicains, aux travailleurs mexicains qui veulent venir. Bon, le fédéral commence à réagir un peu parce que trop, c'est trop. Mais il y a une espèce de conflit idéologique, évidemment, entre le fédéral. Pour qui c'est une idéologie? Les musculturistes, c'est comme une religion. Hein? C'est comme une idéologie. Donc là, on est loin de Caroline Mulroney. Mm. Mais elle, c'était très noble, en fait. Elle a juste rappelé ça. Puis regarde ce que ça t'a réveillé. Tu m'as invité parce qu'elle a rappelé quelque chose qui est la réalité. Moi, je prétends que la réalité a ses droits. Et là, Québec est une société distincte au sein du Canada. C'est très, très clair. Et moins on va le reconnaître, plus ça va pourrir tout le pays en entier, le reste du pays. C'est ça, au fond, un peu l'espoir qu'on peut avoir, les Québécois, là, ceux qui sont conscients de ça. C'est que le reste du pays va payer de plus en plus le prix pour ça parce que la réalité impose sa loi. Hein.
Christian, tu l'as étudié comme universitaire, Meach. Tu as même été au SAIC, je pense. Tu étais
prêté
fonctionnaire. Non, mais pour travailler dans ces enjeux-là, ma question, tu vas voir, on n'a presque plus de temps, mais est-ce que 30 ans plus tard, tu as vieilli, le temps a passé, est-ce que tu es encore convaincu que c'était un excellent accord?
C'est évident. Non, c'est évident, parce que c'était modéré, c'était canadien. Le problème actuellement, c'est qu'on n'est plus dans la modération canadienne traditionnelle. Même le Canada anglais est nié là-dedans. Tu sais, le Canada, c'est pas juste l'ensemble de la planète, puis le culturalisme, puis l'immigration. Il y a une espèce de cohérence historique canadienne, de modération canadienne qui est plus là. L'accord du lac Meech était éminemment canadien, comme Brian Mulroney, comme d'ailleurs le jugement de la... C'est un drôle de hasard. Le jugement de la Cour d'appel sur la loi sur la laïcité, là, moi, je trouve qu'ils ont été très créateurs de façon positive, les juges, pour une fois, quand ils ont dit la clause non-obstant, on peut voir ça comme une clause de souveraineté parlementaire. Ils en ont fait quelque chose de positif, alors que la clause non-obstant, la clause dérogatoire, autant tu peux l'utiliser, elle est constitutionnelle, puis c'est normal, c'est négatif. Donc, si tu te fais accuser de ne pas respecter les droits de la personne, c'est toujours difficile. Ce jugement-là de la Cour d'appel, il était totalement dans l'esprit de l'accord du lac Meech, totalement dans l'esprit de Brian Mulroney, puis il est arrivé, je pense, la veille de la mort de Mulroney. Moi, je trouvais que c'était un drôle de hasard. Donc, moi, je désespère pas, parce que je suis pas le genre à désespérer comme tel, mais c'est clair que non seulement les Québécois n'ont pas été capables, j'en parle dans mon livre, non seulement on n'a pas été capable d'améliorer notre situation au sein du Canada, mais on l'a empiré.
Christian Dufour, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais la première, je pense, qui a retenu beaucoup d'attention ce matin, mais c'est sûr que ça se place dans une continuité, Mario, là, qui est venue dans les derniers mois. dégringolade de la CAQ dans les sondages, puis cette fois-ci qui est imagée par le site là, l'agrégateur de sondages et de projections électorales QC125 ce matin. Et ça a frappé fort, Mario, parce que c'est beau d'entendre des pourcentages, des intentions de vote, mais quand on vient de chiffrer là, véritablement avec des sièges, circonscription par circonscription, ben c'est un peu plus violent, là, comme l'illustre ce matin celui-là, qui place là, à QC125 la coalition Avenir Québec au quatrième rang s'il y avait une élection demain matin. 11 députés seulement à l'Assemblée nationale, on passerait de 90 à 11, ce serait une méchante dégelée.
Ouais, ça reste que, on dit un sondage, tu sais, il y a une marge d'erreur, c'est pas très précis, mais c'est quand même un exercice scientifique avec une méthode. Les modèles du genre Québec 125, tu pars déjà d'un sondage, puis là, tu rentres ça dans une méthode de distribution par comté qui a une valeur. Il n'y a aucun doute qu'il y a une valeur méthodologique. Mais c'est à haut risque, là, t'sais, dans le sens que tu dis, OK, même eux, là, ils disent, ben, t'sais, la CAQ, là, ils disent 14, mais en réalité, ils disent, leur fourchette, c'est entre 1 et 29.
C'est une grosse fourchette.
Ouais, c'est une grosse. Fait que la CAQ pourrait avoir un siège, mais pour aussi en avoir 29, puis être l'opposition officielle. Puis l'autre affaire, c'est que, à un moment donné, là, tu sais, je comprends ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des résultats des dernières élections, puis de tel comté, il est plus caquiste, tel comté est plus péquiste. Puis là, pour ça, ils remettent ça, si t'enlèves 5 points à un, 5 points à l'autre. Toute une méthode très, très pointue. Mais là, après ça, t'as les candidats vedettes. T'as, est-ce qu'un ministre se fait battre dans son comté si facilement que ça? T'as le taux de participation. T'as la machine qui sort son vote ou pas, là. Des critères, t'en as. Alors, c'est pour ça que ça donne une idée. Ça nous donne des ordres de grandeur. Ça nous permet, ça alimente la discussion, mais...
C'est à prendre avec un grain de sel. Oh, puis un gros.
Oui. Puis moi, j'aime en parler parce que moi, j'ai fait ces modèles-là avant tous eux autres. Puis je dis pas qu'ils étaient meilleurs, mais moi, j'étais un fou des mathématiques. Quand j'étais chef de la DQ, le soir, la nuit, quand je dormais pas, là, je faisais des modèles par comté en mettant le maximum de critères, tu sais, puis ça marche un peu, là, je veux dire, c'est, puis peut-être qu'eux autres l'ont encore plus peaufiné, parce que là, ils l'ont duré sur des années, puis d'une élection à l'autre, ils se corrigent. Mais ça reste qu'à un moment donné, tu prends un candidat vedette, tu le places dans un comté, oups, là, tu viens de tout faire basculer les chiffres. Tu sais, plein de petits facteurs comme ça. Fait que c'est un exercice hyper sensible. Attends, est-ce que ça va mal pour la CAQ? C'est évident. Que le PQ soit en territoire majoritaire, c'est pas dur à voir. Dernier sondage, tu prends le vote chez les francophones. Les francophones, tu viens de régler à peu près 80 comtés sur 125, là. Le PQ était 17 points en avance sur la CAQ. Ils sont 17 points sur la CAQ en avance dans l'ensemble des francophones. C'est-à-dire que dans les régions francophones, ils balayent plein, là. Tu sais, les Laurentides, la Naudière, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils gagnent pas nécessairement tous les comtés, mais globalement, dans des régions comme celle-là, les régions francophones, ils passent la gratte. C'est une évidence, là, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça. C'est vraiment... C'est parfait pour alimenter la discussion.
Ben voilà, Mario.
C'est parfait pour alimenter la discussion politique, mais c'est à prendre avec, disons, prudence.
Voilà. Ben maintenant qu'on a fait l'avertissement, Mario, qu'il est fait, ben suscitons-là cette discussion politique, parce que tu parlais de candidat vedette. Un des avantages, si on veut, là, de regarder tout ça, même si, encore une fois, gros grain de sel à prendre, ben c'est de voir, circonscription par circonscription, c'est qui pourrait être en danger. Puis selon là, les projections de QC125, ben c'est intéressant de voir qu'il y a encore là, des visages qui résisteraient encore justement dans la machine caquiste. C'est le cas, par exemple, de Christian Dubé, le ministre de la Santé, là, ça, dans la Prairie, semble pas trop s'inquiéter. Mais les données sont intéressantes à Québec, particulièrement, où Geneviève Guilbeault, là, qui est la vice-première ministre, pourrait se retrouver dans la mouise, là, littéralement, pour les prochaines élections.
À mon avis, Christian Dubé est en danger. Avec les sondages qu'on a actuellement, moi, je vois aucun caquiste qui est pas en danger. Je pense pas qu'ils seraient tous battus. Mais l'élection serait déclenchée demain matin. À mon avis, il n'y a aucun caquiste qui est pas en danger. Aucun. Les 89 restants sont 89 sur 89 en danger, à mon humble avis. Dans certains cas, ça arrive sud de Québec, ça va être par le Parti conservateur d'Éric Duhaime. À d'autres endroits, ça va être par le PQ. Mais moi, je pense que cette étape-ci, ils sont tous plus ou moins en danger. En danger étant défini, ils ne perdent pas toutes. Mais la personne qui peut se péter bretelle aujourd'hui à la CAQ et dire moi, je suis sûr d'être réélu. Là.
Tout savoir en 24 minutes.
Au fédéral, aujourd'hui, on a annoncé du côté de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qu'on va mettre en branle une opération d'évacuation pour les citoyens qui se trouvent encore à Haïti. Parce que oui, même s'il y a eu démission dans le gouvernement, qu'on parle d'avoir des élections libre et démocratique, ça aussi c'est à prendre avec un gros grain de sel, dans les prochains mois, ben c'est quand même encore et toujours une nation qui est déstabilisée fortement en Haïti. Et c'est pour ça qu'on va organiser là, des rapatriements avec des hélicoptères, Mario, c'est quand même spécial. Rapatriements qui vont s'effectuer, des hélicoptères analysés qui vont partir d'Haïti pour se rendre juste à côté, en République dominicaine, où on va pouvoir recevoir après ça ben les permissions pour revenir ou rentrer au Canada. Et là, on parle d'avoir approché déjà là au-dessus là d'une centaine de gens pour pouvoir les rapatrier.
Mais c'est ce que je comprends du point de presse de Mme Joly, c'est quand même une petite minorité, parce qu'on dirait peut-être quelques milliers de ressortissants, des gens qui ont une citoyenneté canadienne en Haïti.
3000 cas,
ouais. Ouais. Puis la plupart veulent pas quitter, là. Soit que c'est des Haïtiens, je suppose, d'origine, qui ont une citoyenneté canadienne, mais qui sont retournés en Haïti et qui veulent jouer leur rôle, rebâtir Haïti, puis ils veulent pas, sont pas à l'étape de quitter malgré la tragédie qui se vit, là.
Oui.
Mais effectivement, on a quelques dizaines, peut-être une centaine qui voudraient sortir. Eux, parce qu'à un point, on nous disait les malfaiteurs contrôlent l'aéroport, contrôlent
c'était les, d'ailleurs, ouais, un
contrôlent
des points.
Les ports.
C'est un des points qui est ressorti, je trouve, de ce point de presse-là aujourd'hui, justement, c'est le fait que Mme Joly disait de pas pouvoir divulguer plus de détails parce qu'on a peur, littéralement, que les groupes criminalisés viennent intervenir là, dans les opérations d'évacuation. C'est à ce point-là, à Haïti, qu'on peut pas, justement, là, compter sur une certaine stabilité et que le chaos est un peu partout. Donc, je trouvais que ça imageait beaucoup là, l'ampleur de la crise aujourd'hui d'entendre Mme Joly là-dessus. Donc, en espérant que les opérations se passent bien. Mais donc, le Canada qui va imiter Paris et Washington, déjà, hein, la France, les États-Unis qui ont fait des opérations semblables là, dans les dernières semaines.
Actualité.
On revient au Québec parce qu'il y en a des dossiers qui font jaser, Mario, puis encore plus que QC125 ou les sondages, l'éclipse solaire totale du 8 avril prochain. Déjà, là, fait au-dessus d'un mois qu'on en parle, qu'on en reparle, il y a des commissions scolaires qui décident de fermer leurs portes, il y a des commissions scolaires qui décident de rester ouvertes, il y a des écoles au cas par cas qui le prennent, là, c'est le transport scolaire qui est impacté. Et là, aujourd'hui, c'est le gouvernement, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui voulait venir essayer de rectifier le tir en disant...
Les gens qui nous regardent, la caricature de Y est trop géniale.
Ah, notre
éclipse,
collègue.
Là, avec l'éclipse, il fait solaire, scolaire à la fois, éclipse solaire, éclipse scolaire. C'est un génie, là. Ça a passé tellement bon, là.
C'est vraiment fort, honnêtement.
Le petit gars qui se cache dans le derrière de Bernard Drainville. C'est tellement bon.
Ouais, puis qui dit dans la caricature, barricadez-vous, ni plus ni moins, là, pour ceux qui ont pu l'avoir, parce que...
Mais c'est un peu, parce que c'est pas vraiment le ton. Drainville fait partie de ceux qui disent, non, 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 les écoles devraient rester ouvertes, tout ça. Par contre, ce qui est fou, c'est que les écoles qui avaient choisi de rester ouvertes disent maintenant, ouais, mais là, on a vu les directives du ministère, puis là, on n'est plus sûr. Quoi. Donc, le gouvernement fait suffisamment peur aux gens que les centres de services scolaires qui avaient décidé de rester ouverts sont plus sûrs à la lumière des directives gouvernementales.
C'est confus, Mario. C'est le cas de le dire parce que, selon la presse, entre autres, là, qui aurait répertorié un courriel envoyé là, le 28 février dernier, ben, on aurait invité les écoles à demeurer ouvertes, mais on leur suggérait aussi d'éviter les événements extérieurs. Puis là, il y a des écoles à cause de ça qui ont dit « OK, on ferme nos portes ». Ça fait trop peur, tout ça. On peut pas aller dehors. Tout le monde va être dans la classe. Les jeunes vont vouloir regarder par les fenêtres. Ils vont se brûler les yeux. On prend votre chance. On ferme. Et là, c'est parce que dans les derniers jours, il y a l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie du Québec, qui était ici à Cube plutôt aujourd'hui, qui ont même dit la même chose, essentiellement. Ils sont venus en disant, on veut observer ça dans un contexte scolaire. C'est important, c'est un événement rarissime. Les deux discours continuent à diverger, Mario, ce qui fait qu'on
mais
est quasiment...
De façon générale, les scientifiques ont l'air un peu découragés de l'approche générale du gouvernement. Parce que... J'ai pas posé la question, mais je suppose qu'au gouvernement, on nous répondrait, mais écoutez, on peut pas mettre ça dans le site internet du ministère de la Santé, on peut pas mettre ça dans le site internet là, du ministère des loisirs ou du tourisme, mais ils ont mis ça dans le ministère de la Sécurité publique, parce que là, il y a un avertissement de sécurité pour les yeux, sauf ouais. Que ça se retrouve dans le même site internet là, des sinistres, donc au même endroit où on t'avertirait pour un tremblement de terre, pour des inondations, des tornades, des grands verglas, tu sais, Mais là, tu te dis, mais là, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Le soleil, tu sais, la lune va passer devant le soleil. Il va être caché pendant 3 minutes, mais une fois qu'il repasse, les bâtiments vont encore être là. Il n'y aura rien de brisé. Ton cabanon va être debout. C'est, tout va bien.
Ouais.
Tout va bien, madame. Votre cabanon va être debout.
Ouais, tout va être correct. Là. C'est pas la nuée de sauterelles, la peste, le choléra.
Non,
vraiment.
Peut-être votre chien va devenir un peu nerveux.
Oui.
Ça se peut. Ça veut dire que les animaux réagissent, ça, c'est correct.
Mais à part ça, je veux dire, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire humaine, puis il n'y a personne qui a souffert grandement d'une éclipse.
Ça a même déjà sauvé Tintin.
Exact. Peut-être tu m'as devancé, j'allais dire. Ça a même déjà sauvé Tintin. Exactement. Mais non, c'est vraiment des directives qui semblent avoir été confuses, distribuées un peu partout. Puis là, on est au point, Mario, où c'est. Voyons, on est de retour à la rivalité canadien-nordique. Là, c'est 50% des écoles du Québec, des centres de service scolaire. On est ouvert. 50%, on est fermé. Il y a des élèves qui vont être à l'école, d'autres non.
On a beaucoup utilisé le mot « la peur », la peur d'avoir peur. Pour ceux qui sont fermés, je parle. Puis plus les jours évoluent, là, plus les jours avancent, plus j'ai l'impression que la vraie peur, je sais que c'est absurde, mais ça semble être la peur de la responsabilité, la peur d'être poursuivi, la peur qu'un enfant regarde l'éclipse, sa rétine est abîmée. Puis là, les parents vont poursuivre l'école pour dire, ben là, vous l'avez pas surveillé, vous l'avez laissé regarder le soleil, puis tout ça. Puis je me dis, mais là, on est rendu, d'abord, on peut pas avoir un petit peu de surveillance. T'sais, les enfants, il y a fournir des lunettes, surveiller qu'ils enlèvent pas, mais je sais pas, là. Il me semble que c'est pas si compliqué, pas si difficile, pas si terrible que ça. Mais ça a l'air d'être ça, là. La peur centrale, c'est la peur d'être tenu responsable d'un malheur. On est rendu là.
Tout savoir en 24 minutes.
Un autre sujet qui fait peur, Mario, là, puis celui-là, peut-être plus que les éclipses pour les gens à la maison, un Lavallois qui, en fin de semaine, décide d'acheter des bananes dans une belle cargaison du Costco. On peut donc déduire qu'il a pris beaucoup de bananes, ramène ça chez lui, ouvre le papier et se fait piquer par un scorpion qui se retrouve dans ses bananes. Et oui, quelque chose qu'on lit de temps en temps aux nouvelles, là, de voir des bestioles, que ce soit des araignées, des scorpions ou autres insectes qui se ramassent, insectes et arachnides, bien évidemment, dans ces cas-ci, qui se retrouvent dans des fruits et légumes. Là. Ça arrive souvent, par exemple, dans les raisins. Il y a beaucoup de gens, les dernières années, qui avaient trouvé des veuves noires de temps en temps, d'autres araignées. Mais se faire piquer, Mario, là, on est dans un autre dossier.
Mais un scorpion, c'est un petit peu prochain niveau avec des insectes. Bon, OK, mais un scorpion, j'avoue que ça nous amène ailleurs.
Ouais, scorpion.
Ça m'aurait étonné, là, moi qui, quand même, ces affaires-là, pas trop, là, mais scorpion, je reconnais que j'aurais été surpris.
Oui, puis pourtant, c'est un scorpion qui se trouve dans les bananes la plupart du temps.
Mais il s'appelle comme ça, là, je pense en anglais, il l'appelle...
Banana scorpion, c'est littéralement. Ça, ouais. Qui vit là dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale. Là, ça, ce serait un chargement qui serait venu du Guatemala, donc en Amérique du Sud. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, là, semble-t-il. Dans la cueillette, on les enlève, après ça, on les met dans un entrepôt. Mais par le temps où ils sont dans un entrepôt... C'est là, souvent, qu'il peut se glisser des indésirables comme ceux-là. C'est assez quand même, Mario, pour qu'on ouvre une enquête du côté de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais surtout, ça a fait une bonne frousse puis une bonne douleur aussi à M. Étienne Normandin.
Ça pique, ça a l'air, là.
Oui, ça pique.
Il parle comme une guêpe, mettons. Là.
Il dit une guêpe deux fois, mettons. Là. Double la douleur d'une guêpe. Heureusement, on parle pas chez les scorpions, là, c'est rare que ça fait beaucoup de dégâts là, de se faire piquer par ce genre d'arachnide-là.
Tu ne transformes pas en scorpion, là?
Non, okay. Tu ne deviens pas Scorpion Man.
Okay.
C'était cool, mais ça n'arrive pas, malheureusement.
Mais moi, je t'avoue que depuis que cette nouvelle-là est sortie à midi, j'ai pas mangé une banane.
Pas une seule depuis ce midi?
Non.
Combien de temps le boycott va-t-il durer?
On va peut-être jusqu'à demain matin.
Ouais, tu vas demander à Marie-Claude d'ouvrir les bananes pour toi à maison. C'est correct, ça, je comprends. Et dans tous les cas, l'homme est correct. Là, il a appelé le 811. Moi, c'est peut-être ça que je retiens de l'histoire, Mario. Lui qui raconte, il dit on a appelé le 811, on a attendu une heure, puis finalement, on est allé à l'hôpital.
C'est
rassurant, n'est-ce pas? De se faire piquer par un corps étranger.
À la défense du 811, ils doivent pas quand même être inondés. Parce que, tu sais, ça marche avec un écran d'ordi, là. Tu sais, oui. Faites-vous ci, ça, le cœur, ouais, respiration, t'sais. Scorpion, tu sais. Oh, j'ai pas la.
La carte scorpion est loin, là.
Là, pas, là. Non, là, scorpion. Là, t'imagines la personne en silence. Oh.
Ouais. Ouais. On va peut-être y aller directement. Dans tous les cas, plus de peur que de mal. Puis dans le reste de l'épisode, restez des nôtres parce qu'on aura un expert, justement.
Est-ce qu'un monsieur poursuit Costco pour 1 million?
Non, ça n'a pas l'air que... Dans tous les cas, semble-t-il que ça tomberait, comme je dis, soit sur l'entrepôt, soit les gens qui déplacent mais non, mais... Là, tout ça. Mais même là, je veux dire...
Mais tu poursuis Costco, voyons.
Ouais, tu penses que oui.
Mais là, Costco va vouloir acheter la paix, là. Costco est pas... Il va lui donner, mettons, les bananes gratuites pour sa vie, non?
On va aller fouiller les bananes de Costco, toi et moi, Mario. J'ai hâte
mais non, mais je sais pas, là, Costco va vouloir acheter la paix pour une histoire comme ça, montrer qu'ils sont des bons joueurs. Ben, Costco fera pas faillite même s'ils donnent des bananes aux messieurs. Là. Ah. Dors tranquille.
Ça, je te crois là-dessus.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Bon, on va lâcher les scorpions, on va se diriger vers quelque chose d'autre dans le domaine de la faune, les cerfs, plus précisément ceux de Michel Chartrand à Longueuil qui reviennent dans l'actualité, ou du moins le sujet revient dans l'actualité parce qu'on a annoncé...
Parce que les cerfs ont rien fait, eux autres. Ils sont bien tranquilles, ils broutent tout ce qu'il y a sur leur passage.
Ils sont nombreux, effectivement, ouais. Le temps était doux, clément avec eux, et oui, ils poursuivent leurs activités dans le parc Michel Chartrand, qui ne poursuivra pas ses activités, par contre, du moins pas pour l'instant, mais c'est une femme dans la cinquantaine qui a été arrêtée en lien avec des menaces proférées à Mme Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil. On parle, entre autres, de harcèlement criminel de son côté, à son endroit, parce que c'était déjà dans l'air depuis un bout, Mario. Là. On parlait d'une garde rapprochée du côté du service de police de l'agglomération de Longueuil qui a dû s'orchestrer autour de la mairesse Fournier parce qu'on avait peur, ni plus ni moins, pour sa santé et sa sécurité. Et là, ben, c'est une personne comme ça qui a été arrêtée, remise en liberté sous condition, bien évidemment, mais c'est des accusations criminelles qui pourraient tomber contre cette femme-là. Quatrième cas d'enquête ouvert par la police autour de Mme Fournier et de la saga des sœurs de Longueuil, là, qui, on le comprend, il y a des gens qui dénonçaient que ça va avoir coûté cher en frais judiciaires, en temps, en séance du conseil de ville pour écouter tout ça sur les sœurs de Longueuil. On va ajouter à ça, Mario, le coût que ça va prendre aux tribunaux pour gérer les gens qui font des psychoses autour des sœurs de Longueuil. C'est-tu pas beau tout ça?
C'est hallucinant. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, on pourrait nommer, il y a des élus qui ont fait de la corruption, là, qui ont volé leur population sur...
Puis ils se font moins insulter que ça.
Ben, jamais un centième, là.
C'est fou, pareil.
Non, c'est incroyable.
Est-ce qu'on s'insurge pour les mauvaises choses?
On pourrait faire la liste... Non, mais c'est parce que les mauvaises choses, les victimes sont juste des êtres humains. Ça, c'est moins grave. C'est moins grave. Là, c'est, dans ce cas, c'est des chevreuils.
Moi, je me dis que c'est les gens là, comme ça qui veulent susciter de la compassion, comme tu le dis. C'est des gens qui n'ont jamais écouté la guerre des tuques. Ouais. T'es-tu triste à la fin quand le chien meurt dans la guerre des tuques? Oui. Divulgacheur, je suis désolé. Et tu vois, ça vient toucher à la fibre des gens. Fait quand enfin, tu le dis, les animaux...
Mais je sais pas comment tu justifies ça, mettons, dans ta famille, tes cercles d'amis, là, t'es arrêté parce que harcèlement criminel sur la mairesse dans le dossier des chevreuils. Je veux dire, voir que est-ce que t'es fier de ça, tu dis, ah, moi, c'est parce que moi, j'ai des convictions, puis j'ai défendu, puis... ouais.
Tout savoir en 24 minutes.
Puis on va rester dans les sujets gênants, Mario, parce que c'est parvenu là, dans les dernières heures du collègue Yves Poirier de TVA Nouvelles. Une vidéo, encore une fois, qui lui a été envoyée par des parents dans un aréna de Boisbriand durant la fin de semaine. Là, samedi dernier, une partie de Pee-wee A. Et là, on comprend Pee-wee A, la simple lettre. 11-12 ans, des jeunes qui jouent Mirabelle contre Saint-Eustache. Et là, ben, pendant que ça se passe à Boisbriand, samedi matin... Les choses ont dégénéré, là. On comprend pas exactement ce qui s'est passé pendant la partie pour susciter...
Probablement une mauvaise décision de l'arbitre aux yeux de certains.
On peut justement spéculer là-dessus, effectivement, Mario, puisque c'est envers l'arbitre que la haine a été dirigée, les arbitres qui étaient sur la glace à ce moment-là. Puis ça a commencé avec l'entraîneur adjoint de l'équipe de Mirabelle, on le salue, qui a pris une excellente décision, celle de prendre une poubelle puis de la lancer, ni plus ni moins, sur la glace. Ce qui a provoqué, hein, quand on donne l'exemple comme ça, quand on fait partie de la partie... Bravo champion, ben, une avalanche de déchets, cafés et autres objets qui ont été lancés par quelques partisans dans les estrades en direction des arbitres. Là. Puis là, ben, c'est disgracieux, Mario, sincèrement. On parle de jeunes arbitres, puis dans ce cas-ci, il y a une jeune femme arbitre qui se retrouve là. J'ai déjà fait ça, moi, du Pee-wee A le matin dans un aréna, puis je peux te dire que c'est à peu près la foule la plus hostile que tu peux pas avoir contre toi. T'es jeune, t'essaies de faire de l'argent, puis dans un milieu où il manque des bras, puis voici ce qu'on t'entend quand t'essaies de faire ton travail.
J'ai-tu bien entendu?
Attends, ça continue.
T'es conne, t'es niaiseuse.
Et oui, tu as bien entendu, Mario. Va te faire manger, là. C'est ce qu'on entend un peu plus tôt. T'es conne, grosse tâche. Non, des insultes, là.
Une arbitre mineure, selon ce qu'on comprend, là, probablement.
Ben, jeune, hein, jeune ouais. Arbitre, jeune femme aussi. Il n'y en a pas beaucoup, ça, de jeunes femmes arbitres qui vont aller, justement, faire des parties comme ça. Beaucoup moins, du moins. Puis là, ben, entendre des insultes comme ça, tellement que ça a bouleversé d'autres parents qui étaient dans les estrades puis qui ont tenu à filmer l'événement puis à le faire envoyer. En plus, on l'a vu dans la vidéo il y a quelques instants, Mario, les gradins sont remplis de jeunes enfants, là, des vrais jeunes enfants, là, 3, 4, 5, 6 ans, là, qui sont juste à côté des parents, qui sont en train de hurler des injures dégueulasses en l'endroit d'une jeune femme qui arbitre. Bref, on verra qu'est-ce que ça va donner.
Comment ça a fini? Est-ce qu'ils ont expulsé les parents? Est-ce que ça a pris la police? Est-ce que...
Pour l'instant, on a peu de détails. On a reçu la vidéo. Assurément qu'on va en savoir plus très bientôt, mais... Vraiment, c'est absolument abject ce qui a été vu encore une fois.
Jocelyn Thibault a quitté, découragé. Hein?
Ouais. Ouais, puis on comprend un peu pourquoi.
Économie.
Encore une fois, rien ne va plus chez Boeing. On a annoncé là, vouloir prendre un nouveau départ, Mario. Puis dans ce temps-là, c'est comme quand le Canadien va mal, c'est qui qu'on renvoie en premier? La personne qui a les mains sur le volant, et cette fois-ci, c'est le patron de Boeing, donc qui va devoir quitter d'ici la fin 2024, Dave Calhoun, qui était venu, si on veut, en rescousse à Boeing, parce que là, on se comprend, une porte qui part dans le beurre, des panneaux d'avion qui tombent, plein de problèmes de qualité dans les derniers temps, ça fait beaucoup jaser. Non,
quand les vérifications ont été faites sur les panneaux, des autres avions de même des mêmes années de fabrication, il y en a quand même trouvé qu'il n'y avait pas les boulons.
Ouais.
Il avait jamais tombé, il était coincé là. Tout... Mais quand ils sont allés vérifier, ils ont dit les boulons n'étaient pas là.
Ouais, puis la qualité, là, tu sais, qualité de tes produits quand tu fais des avions, règle générale, mais c'est assez important. Merci. Puis comme j'ai dit, c'est que M. Calhoun, il était arrivé, lui, là, en 2020, pour essayer de ramener la confiance après qu'il y a eu deux écrasements des 737 MAX 8, là, on s'en souviendra, Lion Air, Ethiopian Airlines, 346 morts dans tout ça, était arrivé pour ramener la confiance, pour que les gens continuent là, d'investir dans cette entreprise-là. Faut croire là, qu'il n'a pas fait le travail jusqu'ici, Mario, donc il va devoir quitter lui aussi, conseil d'administration, donc il va se faire peau neuve, va tenter de nommer quelqu'un d'autre sous peu.
Le monde.
Il y a beaucoup d'observateurs de la politique américaine qui regardaient aujourd'hui comme une date butoir, Mario, pour le paiement de M. Trump. Hein? On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Lui qui doit le 454 millions de dollars d'amende à l'État de New York allait devoir le donner en liquide, en caution, dès aujourd'hui. Ben voilà qu'il y a eu une décision
en
appel.
Il a gagné sur celle-là.
Il a gagné sur celle-là alors qu'il va devoir donner d'ici 10 jours, on lui donne un petit sursis, quand même 175 millions de dollars comptant, donc pour sa caution. On se comprend que l'amende, elle, ne disparaît pas, mais pendant qu'il va appeler en appel, il va y avoir donc cette caution-là.
Donc s'il perd en appel, on va revenir au montant initial.
Absolument.
Mais c'est qu'on lui permette, parce qu'on ne l'oblige pas à payer 100% du montant pour aller en appel.
Voilà, donc on va lui demander de donner 175 millions. Puis ça tombe la même journée où il est inculpé, là, on a refusé de lui reporter davantage un autre procès. Des fois, c'est complexe suivre les différents procès de M. Trump. Celui-là, c'est le procès pénal historique dans l'affaire qu'il oppose à Stormy Daniels, hein, des paiements qu'il aurait versés pour faire taire des relations extra-conjugales qu'il aurait eu avec cette ex-actrice porno.
Qui en a finalement parlé.
Oui.
Avec beaucoup de détails.
Oui, oui, elle s'est livrée en détail, c'est le cas de le dire, Mario. Mais là, on a droit donc à ce nouveau procès qui pourrait quand même là, coûter 4 ans de prison à terme à M. Trump. Il a encore essayé de le reporter, mais la date, elle est fixée dans le béton. On parle du 15 avril
prochain. Choix du jury, on procède à cette date-là.
Oui, absolument, on va procéder, donc il pourra pas s'en sortir là, tout de suite, du moins. La justice va suivre son cours.
Et tu nous conclus ça avec une petite blague de l'ami Biden.
Ben oui, puis je voulais souligner le changement de ton rafraîchissant en ce moment de la campagne de Joe Biden et de Kamala Harris qui s'est mis en marche parce que M. Trump s'est vanté de ses performances dans son tournoi de golf, tu vois, la fin de semaine.
Moi, j'avais trouvé le message de Trump hilarant là, de ridicule. Là.
Oui, on se comprend que c'est son club de golf à lui.
Mais il se vante vraiment d'avoir gagné les deux trophées. Là. Le championnat du club et le championnat senior.
Oui, encore. Hein, Mario, encore. Il a gagné ça.
Malgré un terrain très difficile et un niveau de jeu relevé de l'ensemble des membres.
Exactement.
Fait qu'il n'y a pas un gars de 37 ans qui frappe plus fort que le monsieur de 80 ans dans tout ce club-là et qui joue mieux. Là.
Exact. C'est lui le meilleur. The best of all time, ever. Bon. Puis je souligne parce que quand je dis c'est un changement de ton, c'est que M. Biden est allé, il a dit « Bravo, Donald, quel accomplissement! » Le féliciter, il a pris le temps de le féliciter de manière complètement ironique sur Twitter, puis ça vient, Mario, mais avec d'autres messages. Le tout dernier en liste qui est sorti cet après-midi, dans lequel là, on a un changement de ton drastique, dans lequel on dit « Donald Trump est un candidat faible, désespéré, autant comme humain que comme candidat. Le message commence comme ça aujourd'hui de la campagne de Biden, en disant qu'il a passé la fin de semaine à jouer au golf, le matin à se comparer à Jésus, l'après-midi en mentant sur son argent. Les Américains méritent mieux. Donc, on a un changement de ton. Peut-être qu'on va jouer beaucoup plus féroce cette fois-ci, Mario.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Le problème n'est pas là.
Francis Gosselin.
Ça sonne comme une arnaque.
J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
Mario Dumont.
Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
La rencontre. Gosselin Dumont.
Bonjour Francis.
Salut Mario.
Le ministre des Finances du Québec, M. Girard, qui est allé en tournée à Toronto.
Oui, effectivement, il était c'est dans son agenda et difficile d'en savoir beaucoup plus, mais il a fait une tournée des investisseurs à Toronto le 19 mars dernier.
Donc ceux qui achètent la dette du Québec, les obligations du Québec,
on
probablement.
Peut s'imaginer
c'est à Toronto pas à New York, en gros, c'est les deux endroits où
on peut s'imaginer que ce sont ces gens-là qu'il a rencontrés. Et peut-être pour remettre ça en contexte, évidemment, tu te rappelleras bon que le budget a été déposé le 11, il a été quand même assez contesté, on va dire ça comme ça. Et M. Girard s'était réjoui le surlendemain, en fait, qu'il y avait une émission de bons du trésor, là, d'obligations, dans le fond, là, québécois.
Mais, c'était un peu grotesque. Non, mais dans le sens que, Francis, moi, là, ouais. Je veux dire, j'ai critiqué le budget, j'ai été déçu du déficit, mais mettons, le lendemain, si tu m'avais offert des obligations du Québec, là, je les aurais achetées. Dans le sens que je pense pas que le Québec va faire faillite parce que cette année, on a un déficit de 11 milliards.
Tu comprends? Mais c'est ça l'enjeu pour moi, c'est que le ministre Girard, je sais pas s'il pense que les Québécois sont des valises ou quoi, mais il s'est réjoui devant le public que ça avait trouvé preneur, donc ces actions-là. Et donc, je voulais juste comme remettre en contexte, j'ai fait des appels, Mario, parce que tu sais, je me suis dit, comme tu viens de l'énoncer, je veux dire, je pense pas que le Québec va faire faillite si le Québec émet des obligations. Si ça fit dans ma stratégie.
Tu vas être acheté, là.
C'est pas moi qui les achète. Hein, tu sais, c'est les banques qui les achètent puis qui les refourguent à leurs clients. Mais donc, j'ai fait des appels à des institutions financières parce que je connais des gens qui travaillent à acheter. Et de l'histoire, de mémoire d'homme, il n'y a jamais une émission d'obligation qui n'a pas trouvé preneur. Donc, je comprends pas pourquoi le ministre a senti comme. Et il se réjouissait de ça, là, comme ah, ben.
Non, mais ça pouvait être la preuve. Que les marchés n'étaient pas nerveux.
On pourrait être en faillite technique. Notre dette trouverait quand même preneur, tu sais, fait que c'est un petit peu singulier. Donc, je pense quand même que cette volonté de rassurer les investisseurs à Toronto, le cas échéant, ça rappelle le ministre Landry qui avait fait ça il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Il est allé en mission un peu urgente à New York pour défendre son budget et avec toujours cette menace de la décote.
Ben, c'est ça. À l'époque, le Québec était menacé d'être décoté. Et là, on est sous surveillance. Je pense pas qu'on est tout de suite menacé d'être décoté.
Non,
mais à mon avis, deux budgets consécutifs là, de cet acabit là, on serait dans le trou.
C'est assez certain. Puis, tu sais, il faut dire que M. Girard connaît ça. Hein. C'est quand même, je le rappelle, l'ancien premier vice-président à la trésorerie corporative de la Banque nationale. Donc, tu sais, toi et moi, il sait là, les entrées et les sorties de grands fonds de centaines de milliards de dollars. Il connaît ça. Donc, je suis certain qu'il est allé voir quelques-uns de ses anciens copains à Toronto pour un peu leur expliquer ce qu'il y avait dans le budget. Parce que, tu sais, Mario, cette notion là, de code de crédit, puis de décote, puis de mise sous observation, il y a une dimension quand même assez qualitative là-dedans. C'est une perception de risque hein, qu'on a envers un État.
Il y a plein une confiance, exemple. Mettons une compagnie là, une mauvaise année. Bon, puis là, toi, mettons la valeur de l'action d'une compagnie qui a une mauvaise année. C'est que le PDG te dit, ouais, on a eu une mauvaise année, c'est l'année
parce que
notre machinerie a brisé, patati patata, mais l'année prochaine, ça va aller mieux. Ça devient un acte de foi. Est-ce que cette compagnie-là a une bonne stratégie? Est-ce que ça va aller mieux l'année? Mais c'est pareil pour le budget. Est-ce que tu le crois, le ministre des Finances, qui dit, là, j'ai un plan pour réduire mes dépenses, ou est-ce que tout ça, c'est de la... La chenoute, tu sais, de là-dedans, mais du vent.
J'attendais de voir ton choix de mots.
Non, mais c'est du vent. Fait que ça devient un acte, comme tu dis, de confiance, de foi. Es-tu compétent? Ils vont-tu redresser les finances publiques? Ça va-tu être mieux l'an prochain? Oui, pour vrai, ou je le crois pas pantoute.
Et je pense qu'une des raisons pour laquelle ces institutions, ces investisseurs et la plupart des observateurs, puis même à la limite les Québécois en général, ont raison d'être un petit peu dubitatifs de l'exercice que mène la CAQ, puis M. Girard particulièrement, c'est pas tellement l'ampleur du déficit. Parce qu'ultimement, objectivement, puis j'ai vu plusieurs économistes là, commenter en proportion du PIB, blablabla. Bon, OK, fin. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, Mario, dans tout ça, puis je pense que ce qui justifie un voyage comme celui-là, c'est que M. Girard, systématiquement, depuis son entrée en poste, est à côté de la plaque. Il dit « on va faire ça » et il se passe ça. Il dit « on va faire ça ». Et qu'on soit au-dessus ou en dessous, là, tu sais, et on avait annoncé des déficits, on a fait des surplus. Là, on avait annoncé tant de déficits, on en fait trois fois plus. Et donc, c'est comme s'il n'avait aucune visibilité sur ce qui s'en vient dans les 12 prochains mois. Tu sais, c'est quand même étonnant. Je veux dire, il doit avoir 3-4 économistes qui travaillent pour lui. Là. Ils doivent avoir une vague idée de ce qui s'en vient. Donc, soit ils manipulent un peu l'opinion publique ou carrément, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer, puis ils vont nous sortir un autre budget l'an prochain avec, comme tu le dis, un déficit ouais. de la même ampleur. Puis là, ça, c'est inacceptable, effectivement. Il faut reconverger vers l'équilibre budgétaire éventuellement. Et pour ça, il faut avoir de la visibilité sur ce qui s'en vient et arrêter ouais. d'avoir la pensée magique. Là, t'sais.
Mais on se comprend à court terme, personne n'est nerveux non. à l'idée que les obligations du Québec non, pour non. financer notre dette ne trouveront plus de preneurs sur les marchés internationaux.
Petite nuance, on est repassé au-dessus de l'Ontario pour la dette sur PIB. Là. Donc, tu sais, je sais que ouais. M. Legault aime
par ça contre, budget, comparer, par contre, le budget de l'Ontario est demain.
on en
fait que là, on va attendre de voir ce que l'Ontario dépose comme budget à 16h demain.
Yes.
L'entreprise Lightspeed, qui a été une vedette en bourse, la vedette québécoise, montréalaise en bourse, à travers... en bourse même à ouais. New York, là, dans le Nasdaq. Ensuite, une catastrophe après la pandémie. Là, il parle de se retirer de la bourse.
Oui, effectivement. Ben,
donc, reprivatiser l'entreprise.
Ouais, exactement. Ben, tu sais, l'entreprise avait fait son entrée en bourse de mémoire là, autour de 16$ ou quelque chose comme
elle
ça.
Elle montait à 100.
Et ça, 155.
155, ouais,
écoute,
mon Dieu.
Je regarde, 158, là, en tout cas. De,
puis après ça, de 150, elle est redescendue à 20.
Ben, au prix de son entrée, le 18 à 20, effectivement. Puis, donc, ça a été, bon, quite a ride, là, comme on dit en bon français. Ça, des montagnes russes hein, pour cette entreprise-là.
C'est une entreprise de paiement. Là,
c'est ça. Donc, quand vous payez, là, petit, j'ai fait mon fameux texte sur le pourboire là, que on m'en reparle encore une semaine plus tard, mais quand vous allez dans un point de vente, un café, un magasin de vélo, etc., Lightspeed pris une grande part de marché de la machine, le terminal de point de vente. Et en plus de ça, tout ce qu'il y a derrière, là, le logiciel que le commerçant utilise pour faire ses réclamations puis avoir la conciliation, etc. Donc, c'est à la fois des objets, donc des machines et un logiciel. Et évidemment, c'est de plus en plus sophistiqué. Maintenant, les entreprises peuvent se faire des balances entre elles, donc des virements entre elles, etc. Ça occupe une place importante, évidemment, dans le panorama financier canadien et même mondial. Là, de plus en plus, ils ont des activités un peu partout sur la planète. Et puis donc,
ils sont tout près d'ici, là. Ils sont ouais, à trois coins de rue d'ici.
C'est une
là.
Entreprise de Montréal qui a été fondée par Dax Da Silva donc, et quelques amis. Et M. Da Silva avait quitté quand l'entreprise, enfin un peu de temps après que l'entreprise soit entrée en bourse, il avait été remplacé par son chef des opérations, si tu veux. Et là, suite au dévoilement des résultats récemment, ce remplaçant a annoncé qu'il quittait l'entreprise. Donc, Dax Da Silva a repris la présidente de l'entreprise. Là, je pense qu'il cherche un petit peu des alternatives. La bourse n'est pas gentille, entre guillemets, avec Lightspeed. Puis c'est intéressant, cette histoire de reprivatiser, parce qu'il y a des entreprises qui font ça à l'occasion, pour plein de raisons, mais parce que justement, quand le marché considère ton secteur, là, qui est celui des paiements, celui du commerce électronique, celui de la technologie, si le marché considère que ton secteur va plus ou moins bien, et que toi, tu penses que ça va mieux que le reste, ben t'es comme indûment pénalisé d'être en bourse et donc t'es mieux effectivement d'être privatisé.
Sauf que là, faut que tu rachètes toutes les actions en circulation.
Ben c'est pas Dax Da Silva, là, je suis sûr qu'il est assez riche, mais la compagnie vaut 3 milliards de dollars, là, tu sais. Fait que c'est sûr que généralement, ça se fait par un fonds de private equity, là, donc de capitaux privés qui vient puis qui dit je rachète toutes les actions en circulation, effectivement. Puis maintenant, ben c'est moi qui gère, c'est moi qui perçois les risques, là, et donc les bénéfices et les déficits. Et donc, Lightspeed envisage ça, notamment parce que la semaine dernière, il y a une autre entreprise canadienne, québécoise, Nuvei, je ne sais pas si tu
connais. Ouais.
Nuvei,
oui. Dans le même domaine, non? Un peu technologico,
ouais. Truc. Là. Puis c'est drôle parce qu'il y avait Ryan Reynolds, l'acteur là, que j'aime bien, là, mais qui avait investi dans cette entreprise-là. Depuis, Nuvei a perdu 3/4 de sa valeur boursière. Et donc là, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils considéraient donc, se privatiser. Donc, ils avaient peut-être... Ils étaient en négociation avec des acheteurs. Et le prix de l'action a bondi là, de comme 20% en quelques jours. Donc, pour dire qu'il y a de l'appétit pour privatiser des entreprises comme celle-là qui ont peut-être un peu de difficultés. Donc, à voir, mais je rappelle, tu sais, parce qu'on en a parlé, mais des entreprises ne peuvent pas juste annoncer ça pour mousser artificiellement la valeur de leur action. Donc, généralement, quand tu dis que tu considères ça, c'est parce qu'effectivement, il y a...
Faut que ce soit sérieux, là.
Et je voulais, tu sais, rappeler que Elon Musk, à une époque, avait dit ça, avait tweeté ça à propos de Tesla. Il avait dit « je considère ramener Tesla privé, là, donc la sortir de la bourse ». et à un prix de 420 $ par action. 420, c'est 420, c'est l'heure à laquelle on s'allume un joint, là, Mario. Je sais pas si tu connais ça,
non.
Mais donc, et tu sais, dans l'univers de Elon Musk.
Je suis en onde à 80 chaque jour.
Ben, écoute.
Je m'abstiens.
Ça pourrait changer la nature de l'émission, peut-être, mais Monsieur Musk a comme une obsession sur ce chiffre-là, là, qui est un peu son côté puéril et adolescent. Mais bref, il avait dit ça et il finit son tweet en disant Funding secure, le financement est assuré. Et la Securities and Exchange Commission, qui est l'AMF américaine, avait évidemment regardé du côté là, de la réalité des choses. Il avait vu si M. Musk avait fait des représentations, des rencontres, si le funding était secured. Et comme de fait, il y avait de vagues tractations, là, mais tu sais, il n'y avait rien de sécurisé, certainement, de ce côté-là. Et ils avaient interdit à M. Musk d'être président du conseil d'administration de Tesla. Il avait mis son Twitter sous tutelle pendant un certain temps, etc. Donc, bref, on ne peut pas juste dire ça à la blague. Donc, je pense que quand M. Da Silva énonce qu'il y a des pourparlers, c'est vrai. Puis, de fait, le prix de l'action a monté de 5-6% en cours de séance aujourd'hui. Donc, à voir si ça va se concrétiser, effectivement.
Mais sur la valeur boursière, il reste toujours toujours un peu le mystère des entreprises. Parce que Lightspeed, là, a une croissance extraordinaire des revenus, croissance des nombres de clients, mais ils perdent de l'argent. Puis ils perdent de l'argent à un bon rythme, là. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le marché, l'acheteur, l'actionnaire qui connaît pas trop la compagnie, qui est un peu loin, il dit « Ouais, il a l'air d'avoir du potentiel, mais j'en achèterai plus tard quand je vais avoir l'impression qu'ils sont... » Soit qu'ils font de l'argent ou au moins qu'ils sont sur le bord de passer dans le vert, là, qu'ils sont dans... Mais là, pour l'instant, ils ont juste l'air de perdre de l'argent de trimestre en trimestre.
Mais le chiffre d'affaires grandit. Tu sais, c'est la stratégie pour les auditeurs, tu sais, qui connaissent pas nécessairement ce système-là, mais tu sais, de la start-up technologique classique, c'est que tu perds de l'argent pour financer ta croissance, donc acquérir des utilisateurs.
Tu réinvestis tout,
t'empruntes pour aller plus vite. Parce que si tu ne crois pas, il y a un autre à côté qui le fait. T'sais, donc là, on brûle l'argent. Uber est un exemple patent de ça.
Parce que la journée que tu as pris le contrôle du marché puis que tu commences à faire des profits...
Tu montes tes prix, tu baisses, tu coupes dans tes dépenses puis là, tu as une position quasi-monopole.
Ouais,
mais ce qui est vraiment intéressant pour moi, Mario, c'est que historiquement, dans la séquence de financement, tu pars une petite business dans ton garage, tu vas demander 1 000 $ à ton mononcle, puis tu t'arranges un petit pot, mais à un moment donné, ben là, tu veux embaucher 50 personnes de plus, 100 personnes de plus, c'est des centaines, des milliers d'employés chez Lightspeed. Il vient un moment donné où tes besoins en capitaux, c'est de l'ordre de 50, de 100, de millions, de 1 milliard de dollars. Il n'y a juste pas tant d'acteurs qui sont prêts à faire un chèque de cette taille-là. T'sais, la CDPQ va peut-être faire des chèques là, dans les 100, 200, 300 millions, mais à un moment donné, il y a un niveau où tu vas en bourse parce que c'est la seule façon d'aller chercher des centaines ou des milliards de dollars d'un coup. Ce qui est assez singulier, c'est qu'historiquement, les entreprises allaient en bourse quand ils arrivaient justement à être profitables, de sorte qu'ils entraient en bourse, ils émettaient des dividendes, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit depuis Uber essentiellement, puis Airbnb, puis Lightspeed, c'est des entreprises qui font leur entrée en bourse déficitaire et qui restent déficitaires en bourse pendant très longtemps. Ce qui veut dire que toi, comme actionnaire, là, la seule promesse, c'est que tu vas éventuellement devoir faire face soit à une dilution ou à une obligation de remettre de l'argent. Tu vas devoir racheter des actions sans quoi tu vas perdre de la valeur. Donc,
mais
c'est un peu nouveau comme phénomène.
Le rêve de l'actionnaire, c'est de dire la journée qu'ils vont se mettre à faire de l'argent, l'action va s'envoler. Là,
c'est un nouveau pattern, en tout cas, qu'on observe. Puis pour les actionnaires, c'est assez singulier quand même.
Donald Trump a obtenu un sursis aujourd'hui.
Ben, gros break quand même. Je comprends que pour monsieur et madame tout le monde, ça reste énormément d'argent, mais il était question qu'ils doivent déposer une garantie là, de 456 millions de dollars, là, je ne me rappelle plus le chiffre exact, pour une condamnation là, à laquelle il a fait face pour avoir gonflé le prix de ses actifs. C'était aujourd'hui la date limite, je ne sais pas comment ça s'est tracté là, au cours du week-end.
Une cour d'appel, il est allé faire une demande.
Vendredi, la procureure disait qu'ils étaient prêts à saisir les actifs aujourd'hui. Et là, comme un peu à minuit moins une, il y a effectivement une cour d'appel qui a donné la possibilité de déposer seulement le tiers du montant environ, donc 155 millions de dollars. Donc, ça lui
donne redonner un autre 10 jours pour le ramasser.
10 jours de plus. Ouais. Je pense qu'à la lumière de sa situation financière, là, si on lui fait confiance toujours, ça va être plus facile d'obtenir...
Ben, il a l'air à dire qu'il l'a 165 millions. Il a l'air à dire qu'il l'a déjà. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a l'air à dire qu'à ce montant-là, il est correct.
Ou qu'il saura l'emprunter. Je pense qu'à la lumière de ses actifs. Donc, c'est ça. Et, ceci dit, il va devoir faire face à la musique, donc déposer cet argent-là, devoir retourner en cours.
Puis s'il perd en appel...
Il faut payer le 450.
Oui, le 460 millions, il tient toujours. C'est juste que c'est le principe, c'est qu'il faut que tu payes, tu vas, pour avoir le droit d'aller en appel. Si jamais tu gagnes en appel, ils vont te redonner ton argent.
Exactement.
Mais c'est ça le principe.
Oui, mais là, parce que tu es condamné par un tribunal. Que... Ceci dit, l'autre cause, là, dans le cas de Mme Stormy Daniels, elle continue d'aller de l'avant. Ça va avoir lieu à la mi-avril. Et ce qui est vraiment drôle pour moi, Mario, c'est que tout ça, évidemment.
C'est Biden, là.
C'est Biden qui, je trouve, tu sais, on trouvait qu'il était un peu mou. Mais là, depuis le State of the Union, tu sais, on dirait qu'il a retrouvé une certaine fougue. Il a été très bon, je trouve. Plusieurs commentateurs l'ont dit. Mais là, même sur les médias sociaux et dans sa campagne, il commence un peu à utiliser le style de M. Trump, c'est-à-dire de ridiculiser à son encontre. Donc là, évidemment, il y a quelques communiqués qui ont été émis la semaine dernière où il évoque M. Trump et il dit « broke down ». Donc, Monsieur Trump qui est fauché, là, Donald le fauché.
Trump le cassé.
Un peu comme Crooked Hillary. Là, il y avait plein de sobriquets comme ça, donc on espère que ça va tenir. Et puis finalement, l'autre élément, c'est que Monsieur Trump aurait gagné dans son propre club de golf deux
champions. Deux trophées.
Et Monsieur Biden, il l'a comme applaudi de manière totalement ironique. J'ai trouvé ça parfait. Petite culture d'Internet.
J'en ai bien ri.
C'est bien beau.
Merci, Francis.
À demain.
Plutôt, la justice de l'État de New York a finalement réduit la caution que doit payer Donald Trump pour éviter la saisie de ses biens. Je vous rappelle qu'il a été condamné à des amendes de 450 millions de dollars américains pour fraude financière. C'est l'heure de mettre l'actualité en perspective avec nos analystes politiques. Mario, Paul, Emmanuel, bonsoir à vous trois.
Bonsoir, Sophie.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, ce sera finalement 175 millions. Il a 10 jours pour trouver la somme en question. Sa réaction.
A corrupt judge named Ngoron, he ought to be looked at, seriously looked at, especially what he did with valuations. He's the one, he's a fraudulent valuator. So he ought to be looked at and James ought to be looked at because she tried to get him. She's like the puppet master of the judge.
Bon, alors des accusations habituelles. On sait qu'il gonfle la réalité, son portefeuille aussi, là, mais est-ce qu'on commence à mesurer l'ampleur de sa mythomanie financière, Paul?
Ben, c'est un des dangers qui guette Donald Trump, qui se proclame milliardaire au pluriel, et puis peine à trouver, remarquer une caution de 475 millions de dollars. Je sais pas pour vous, là, mais j'aurais de la difficulté à trouver ça également. Mais plus sérieusement, je ramène ça sur le terrain politique, parce qu'il faut lui reconnaître de grandes qualités politiques, là, de judoka, de retourner tous les vents contraires à son avantage. Ouais. Ce qu'on vient d'entendre, normalement, là, ce sont des accusations d'outrage au tribunal qui suivent automatiquement, qui ne viennent pas dans son cas. Plus que ça, quand on pense, parce que là, c'est un des procès, donc sa liaison avec une actrice porno, et puis après quoi il aurait tripoté les chiffres comptables là-dessus. Pensez-y deux secondes. En temps normal, n'importe qui en politique, en Occident, mais particulièrement aux États-Unis, sa carrière serait finie depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas de Donald Trump. Ouais. Il faut lui reconnaître une capacité de rebondir exceptionnelle.
C'est lui, hein, ça fait partie du personnage. Puis encore une fois, Emmanuel, il transforme tout en complot. Là, il fait croire que ses ennemis veulent l'empêcher de se servir de son argent durement gagné pour se faire élire. Donc, pour lui, interférence électorale.
Oui, puis il veut pas cette théorie-là et cette thèse-là qu'il met de l'avant finit par percoler dans l'électorat. Et la réalité, c'est que je ne suis pas experte en fraude financière. Là. Je ne suis pas placée pour dire ça, si l'amende de 475 millions était justifiée ou pas. Mais à partir du moment où la Cour d'appel accepte d'entendre son appel à lui, qu'on décide, qu'on accepte de réduire le montant de la caution là, qu'il doit verser, d'après les experts en affaires judiciaires aux États-Unis, à écouter les propos de la Cour d'appel, c'était pas noir sur blanc là, qu'ils allaient tous maintenir ce jugement de première instance. Donc, veut pas, l'avantage pour lui, c'est que plus il est capable d'avancer ses causes en appel, plus il y a des chances que les jugements soient remis en question, puis plus ça nourrit son narratif à lui, à l'effet qu'il y a une partie de ces procès-là qui est une vindicte partisane des démocrates.
Et pour l'autre affaire criminelle là, qui concerne l'actrice porno, là, Stormy Daniels, Mario, procès fixé au 15 avril, là, quel impact ça peut avoir sur sa campagne et le scrutin qui approche?
Ben là, oui. S'il a gagné sur l'autre, là, de faire réduire le montant puis de pouvoir aller en appel pour un montant réduit, quoique énorme, il n'a pas gagné sur celle-là. Dans le cas de Stormy Daniels, je pense que la stratégie principale, c'était le report, c'était de repousser. Ouais. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, 15 avril, tout semble démarrer, choix des jurés. Donc, en fait, Paul l'a dit, le faire face à un procès criminel, normalement, c'est comment imaginer nous autres ici, mettons qu'un candidat aux élections, n'importe lequel, pourrait en pleine campagne faire face à un procès criminel. Imaginez. C'est comme normalement, dans son parti, on le met dehors tout de suite, on dit t'es plus un candidat montrable, t'es plus un candidat acceptable. Mais lui, dans un monde à part, et ce qu'il a dit tout à l'heure là, sur les tribunaux, T'sais, c'est tellement anti-républicain. T'sais, le parti républicain, là, c'était quoi? C'est le parti de respect des institutions,
la
constitution du pays. Ben non, c'est ça. Mais comment penser qu'un candidat républicain vomit sur les tribunaux comme ça, sur une des grandes institutions du pays?
Ouais, c'est le parti de Trump. On va revenir chez nous, on va parler de cette psychose solaire collective, si vous le voulez bien. Une précision du ministre Drainville qui demandait d'encourager les activités scientifiques, mais de façon sécuritaire. C'est un petit peu porté à confusion. Il y a des écoles qui ont décidé de fermer pour l'éclipse du 8 avril, d'autres non. Alors, on écoute le ministre.
Je comprends les enjeux de transport scolaire. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré laisser les centres de services scolaires gérer la situation sur le terrain, tout en exprimant une préférence pour que les écoles restent ouvertes.
Heureusement qu'on n'a pas une éclipse solaire totale tous les trois mois. C'est bien compliqué, Paul.
Il n'y a rien de simple au Québec. Hein. Alors que c'est un événement qui est exceptionnel, et puis c'est même pas une histoire d'une génération. Il faudra attendre, c'est 150 ans la prochaine fois que ça va survenir au Québec. Et quand on regarde, le pire, c'est quand on regarde, parce que des centres de services scolaires, et là, on se renvoie la balle, là, qui est responsable de ce cafouillis-là. Bon, mais il y a des endroits, des administrateurs scolaires qui ont adopté des mesures à encadrer les enfants, laisser le choix aux parents de garder leur enfant à la maison, mais amener vos enfants, on va les encadrer, et des décisions, là, éminemment complexes, comme par exemple songer, imaginer, avoir l'idée brillante de se dire, si les enfants dans leur classe, il y a une fenêtre à leur gauche, mais savez-vous quoi? On va simplement tourner les pupitres pour empêcher les enfants de regarder dehors. Tu sais, il y avait moyen de trouver des choses très, très simples. Et puis, ce qui nous ramène à ceux et celles qui ont été vite pour fermer les écoles, c'était l'option la plus facile à faire. Ouais. C'était la facilité. Ouais.
Moi, ça, ce que je trouve tellement savoureux dans cette saga-là, c'est que ça fait des années qu'on nous casse les oreilles sur l'autonomie du réseau. Il faut faire confiance aux commissions scolaires, aux directions d'école, puis leur laisser l'autonomie professionnelle, puis c'est pas correct que le ministère dicte tout. Là, le ministre dit, écoutez, l'éclipse, c'est pas à la même heure partout, chaque région a ses... Je vous laisse gérer ça. Et qu'est-ce qui en émerge? C'est la loi du moindre effort, finalement, parce qu'on a peur des syndicats, on a peur de la CNESST, on a peur des parents, on a peur de ci. Moi, je comprends qu'il y a un enjeu de logistique très complexe autour de la sortie des classes, le fait de garder beaucoup d'enfants plus tard. Mais sérieusement, là, au mois d'octobre, les écoles auraient écrit à tous les parents. Ils auraient commencé à savoir qui se rendrait disponible, qui était là, etc. Si on s'y était mis au mois d'octobre, là, vous allez me dire qu'on n'aurait pas pu trouver une solution?
Ouais. Voyons. Puis les scientifiques qui discutent avec le gouvernement depuis 2 ans en plus. Enfin, il y a des écoles qui restent ouvertes. On a envoyé des directives aux parents. La question se pose, Mario, celle qui ferme boutique, là, est-ce qu'on a juste voulu s'éviter des ennuis?
Ouais, puis il semble qu'on a peur des poursuites, là. On est rendu là. On a peur de tout. Mais moi, je trouve les scientifiques touchent un point extrêmement sensible. La catastrophe, c'est qu'on a transformé un événement positif, là, un alignement des astres, un moment, là, tu sais, unique dans la nature. On a transformé quelque chose de positif en quasiment comme si c'était une catastrophe naturelle, là. Écoutez, là, l'éclipse, là, la Lune va passer devant le Soleil. Quand elle va être passée, là, vos cabanons vont toujours être debout. Là. Il n'arrivera rien. Là.
Ça va être fascinant. Écoute, sur la noirceur, tout à coup, les vents...
Mais on a transformé quelque chose de beau, de positif, d'éducatif, quasiment en catastrophe.
On a tous peur. Mais il paraît que c'est la même panique désorganisée un petit peu partout.
Le manque... Je vous le confirme.
Oui, c'est vrai. Ouais. Le manque... Et puis toi, tu as vu ça à Cornwall, on a hâte, Emmanuel. Ah. Le manque criant de médecins de famille continue de faire très mal au réseau de la santé, aux patients. On en parle après la pause.
Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
Les Scandinaves font toujours mieux que tout le monde, semble-t-il. Tu nous parles d'un de leurs jugements?
Oui, parce que là, semaine dernière, jugement de la Cour d'appel en Suède dans
un
procès.
La Cour d'appel en Suède, ça se trompe pas, là.
Ben, ça se pourrait que ça aille en Cour suprême, Mario.
Les Scandinaves, ils ont raison sur tout.
Ben, ils ont raison sur tout, mais des fois, ils peuvent se tromper, comme dans ce cas-ci, où la Cour d'appel a invalidé un jugement de première instance, un jugement de qui possède un objet excessivement particulier. Un météorite, Mario, une météorite plutôt, qui est tombée du ciel sur un terrain. Tout ça commence...
Est-ce que le propriétaire du terrain est propriétaire du météorite qui tombe dessus?
C'est exactement la question qui est posée.
Ou est-ce qu'il est parti encore au ciel?
Ben voilà, c'est la question qui s'est posée parce qu'il y a ce droit, là, un objet inamovible d'un terrain, comme on appelle. Si quelque chose fait partie intrinsèque de ton terrain, théoriquement, c'est à toi. C'est ton terrain privé.
Le météorite tombe, il s'incruste un peu dans le sol, fait qu'il devient pas loin de comme une roche qui serait sur ton terrain.
Voilà! parce que le jugement d'instance de l'appel, Mario, a jugé, justement. Parce qu'au départ, en 2020, la météorite tombe sur le terrain. On a deux biologistes qui débarquent sur place, décident, là, pas des biologistes, mais plutôt des géologues, débarquent là-bas, ramassent le météorite en question, partent avec. Et là, le problème, c'est que le propriétaire du terrain, lui, veut la ravoir à tout prix, sa météorite, mais elle est déjà rendue dans un musée. Là, le premier jugement, il donne pas raison, s'en va en appel, et là, cette fois-ci, ce qu'on a dit, c'est la météorite est faite de fer, sur votre terrain, il y a des quantités abondantes de fer, elle devient donc indistinguable du reste de votre terrain. C'est donc à vous. Et là, on ne sait pas si les deux scientifiques vont faire appel de ce jugement-là, mais ça vient de tomber. Surtout qu'ils ont dû faire ce jugement-là en tenant compte d'une loi qu'il y a en Suède, le Allemansraten, ou le droit de passage et de cueillette. Une loi fort intéressante que je ne connaissais pas. On a le droit, en Suède, d'aller partout sur les milieux naturels, que ce soit un terrain privé ou public. Vous pouvez vous promener comme vous voulez, tant que vous respectez la nature et les animaux, Mario. Mais ils ont dit, ça vous donne pas le droit d'aller choper une météorite si vous en trouvez une sur le terrain. Donc, ça se pourrait que ça se rende jusqu'en Cour suprême, Mario. Faut dire qu'elle voulait en maudit, cette petite météorite.
Mais est-ce qu'elle laisserait dans le musée, le monsieur? Elle pourrait être à lui, puis elle laisse au musée quand même. Juste qu'il...
C'est une excellente question.
Il y aurait un petit carton, là. C'est un monsieur un tel, ça.
On se reverra dans en cours, musée. Mario.
Merci, Alexandre.
Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
Ça vaut la peine d'y revenir hein, parce que ça touche, ça inquiète tant de gens qui nous regardent. Vous avez vu ce dossier dans le Journal de Montréal, en trouver un médecin de famille, c'est toujours le parcours du combattant. On en a vu de nombreux exemples, un petit peu terrifiants. Et ça n'ira peut-être pas en s'améliorant, étant donné la pyramide des âges. On écoute le président de la FMOQ.
Il y a 25 % des médecins de famille au Québec qui ont plus de 60 ans. Alors, attendez-vous, dans les années à venir, à avoir une vague de retraite assez importante.
Et les derniers départs à la retraite font qu'un nombre record de presque 38 000 Québécois sont inscrits sur la liste d'attente seulement en janvier. Là. Ça fait que plus de 2,3 millions de personnes sont orphelins de médecins de famille au Québec et qui pourront attendre des années avant de voir la lumière du stéthoscope, Paul.
Et le pire, c'est que la situation se détériore, s'aggrave pour toutes sortes de facteurs. Ouais. Ça relève pratiquement, au niveau de la société en général, d'un scandale. Quand on regarde le budget total du ministère de la Santé, quand on regarde les impôts, les taxes que payent les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas de médecin de famille, là, 2,5 millions qui n'ont pas de médecin de famille, ça demeure une situation inacceptable qu'on a appris malheureusement à accepter. Et puis quand on découpe un peu les raisons, elles sont multiples. Il y a l'organisation du travail qui pose problème. Il y a aussi la prestation de travail maintenant qui est offerte par chaque médecin. Les jeunes médecins travaillent moins d'heures que les plus vieux, les plus âgés, ce qui contribue au problème. Donc, on pose la question toute simple. Est-ce qu'il y a suffisamment ou pas? Est-ce qu'il manque de médecins au Québec selon les ratios traditionnels? Mm-hmm. Il y en a assez, mais le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas autant qu'à l'époque. Donc, est-ce que la solution, un élément de solution, c'est d'en former plus, d'en avoir plus et de les payer moins?
Ouais. En tout cas, c'est tellement grave, Emmanuel, que le Collège des médecins de famille du Canada craint rien de moins qu'un effondrement du système public de santé si ça ne change pas.
Mais oui, parce que c'est le point de départ de tous les maux qui suivent. Si les urgences, la première ligne, tout ça déborde et n'est pas capable de fonctionner, bien, c'est là que tout va mal. Et c'est comme le nœud du problème qu'on n'est pas capable de gérer. Puis il faut dire que c'est un système qui est articulé autour d'une réalité qui ne convient plus. Il y a le problème du nombre de médecins qu'on calcule encore en termes de propension au travail qui n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui alors que les gens cherchent un équilibre travail-famille. Mais il y a le fait aussi que, on n'arrive pas à fournir, mais il y a plein de gens qui ont des médecins de famille qui ne devraient pas en avoir non plus, c'est ça. Pourquoi moi, j'ai un médecin de famille? J'en ai pas de besoin. Puis je le laisserais aller si j'avais accès à une première ligne, aux tests, tu sais, à mes pap tests, à toutes les bébelles pour lesquelles je vais voir le médecin une fois par année ou quoi que ce soit. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas capable de repenser cette formule-là. puis ça donne les résultats qu'on a.
J'ai écouté le bilan tout à l'heure, Paul. J'ai écouté Gaétan Barrette. Mario, Gaétan Barrette, elle ajoute plutôt. Même Gaétan n'a pas réussi. Gaétan Barrette, un médecin lui-même qui a essayé la méthode forte, il n'est pas arrivé. Pas un peu décourageant.
Oui, il n'est pas arrivé. Lui, il considère qu'il n'est pas arrivé à forcer tous les médecins omnipraticiens à prendre plus de patients. Il y a peut-être un bout de la solution qui est là, mais sincèrement, avec le nombre de prises de retraite qu'on constate présentement, on s'aperçoit aussi que tous les partis politiques se sont trompés. Ils nous ont tous promis à chaque citoyen aura un médecin de famille, parce qu'eux, ils calculaient les nouvelles entrées. Ils disaient, là, on en forme. Ils ont oublié de calculer l'autre bout du tuyau, là, la quantité de prises de retraite, puis que c'était pas du tout réaliste, puis que jamais on allait atteindre ce but-là. Donc là, on a promis ça au monde. Là, maintenant, le ministre Dubé, je pense, travaille sur quelque chose qui est plus réaliste dans le contexte présent. C'est de dire, regarde, tout le monde n'aura pas un médecin de famille. On va essayer que les gens qui en ont pas aient au moins accès, là, le guichet d'accès à la première ligne, accès à la première ligne. Pour l'instant, c'est ça donne des résultats ou pas selon la région ou selon la semaine ou la journée de la semaine où vous êtes malade. En tout cas, ça commence à donner certains résultats. Ouais. Mais je pense que la clé est là. C'est juste que le problème, c'est que là, tu te retrouves avec vraiment deux catégories de citoyens. Ceux qui ont un médecin de famille... Puis ceux qui en ont pas, puis c'est comme en vertu de quoi, là, qui décide ça, on paye tous les mêmes impôts. Mais puis à l'avenir, là, les gens que leur, si votre médecin de famille prend sa retraite, j'ai pas des bonnes nouvelles pour vous là. Les gens qui nous écoutent, qui leur médecin de famille leur annonce ça, ils n'auront plus là.
Ouais, sans compter tous ceux qui partent vers le privé.
Oui, mais ça, on a le pire des deux mondes. On a passé des années à dire qu'il fallait pas de deux vitesses, méchant, méchant privé, puis on l'a laissé rentrer par la porte en arrière. Alors maintenant, on a un système public-privé avec le pire des deux mondes.
Oui, ce qui fait que, Paul, que les Québécois se disent tous aujourd'hui qu'on n'a pas le luxe de tomber malade. C'est à peu près ça.
Comme disait Yvon Deschamps, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade.
Un bon résumé. Merci à vous trois. Salut. À demain.
Au revoir.
Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
Ouais, c'est vraiment une histoire qui a alimenté des discussions aujourd'hui dans les bureaux, dans les maisons. C'est rien de grave, en même temps, c'est un petit peu tannant. Il y a monsieur de Laval qui s'est acheté des bananes chez Costco en fin de semaine. Et lorsqu'il est venu, vous connaissez un peu le Costco, c'est un assez gros, hein, un assez gros régime de bananes, là, avec une espèce de plastique. Et en enlevant le plastique, pouic, il se fait piquer le doigt. Un scorpion qui était caché, je crois comprendre, entre le plastique et la jonction des queues des bananes. Le scorpion s'était fait un petit trou, c'était une petite cachette là-dedans. Et pique le monsieur. Bon, rien de grave. C'est comme une grosse piqûre de guêpe. Puis s'est rendu à l'hôpital pour ça. Finalement, bon, pas plus grave que ça. Gardez le scorpion, sincèrement, vous allez peut-être voir les images. Ça, ouais, c'est tannant, là, tu sais, moi, pas tellement peur des insectes puis des souris puis tout ça, mais j'avoue que le scorpion, il est un petit peu tannant. On est moins habitué. André-Philippe Drapeau-Picard, préposé au renseignement entomologique pour l'Insectarium de Montréal, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On n'est pas habitué au scorpion, là.
Non. Au Québec, on n'en a pas qui vivent dehors. Par contre, ça arrive des fois qu'on retrouve différentes choses dans les aliments qu'on achète. Là, la plupart du temps, c'est des araignées, mais les scorpions, c'est plus rare, effectivement.
Ouais. Mais c'est plus rare, mais donc le scorpion, en anglais, il s'appelle banana scorpion. Fait que je suppose que c'est pas complètement absurde de le trouver dans un tas de bananes, là.
Ouais, effectivement. En tout cas, si c'est bien cette espèce-là, ce qui est probable, là, c'est une espèce qui arrive qu'on retrouve dans les bananes, effectivement. C'est aussi une espèce qui est souvent élevée dans les terrariums là, comme animal de compagnie. Fait que c'est une espèce qui est relativement commune, qui vient des tropiques, donc en Amérique tropicale, puis qui a été introduite d'ailleurs dans le sud des États-Unis où le climat est tropical, puis c'est considéré comme une espèce envahissante dans ces régions-là d'ailleurs.
OK. Est-ce que la piqûre peut être dangereuse ou est-ce qu'une multitude de piqûres pourrait être dangereuse ou c'est banal? Là, dans ce cas-ci, une piqûre à un doigt, en tout cas, le monsieur n'est pas en danger de mort, là?
Ouais. Ben, comme vous l'avez dit, c'est tannant se faire piquer par un scorpion. Celui-là n'est pas particulièrement dangereux. C'est-à-dire qu'une piqûre n'entraînera pas la mort. Il peut toujours y avoir des complications, là. Pour n'importe quelle sorte de
piqûre. Parce que c'est un venin. Mais... En piquant, il injecte un venin.
Oui, ça, c'est vrai pour tous les scorpions. Mais le venin est différent selon les espèces. Et donc, il va être plus ou moins intense. Les effets vont être plus ou moins intenses, plus ou moins dangereux. Puis dans ce cas-là, ça fait mal se faire piquer par ce scorpion-là. Puis, si jamais ça nous arrive, ben moi, j'invite les gens à pas prendre de chance, à communiquer avec Info Santé, le Centre anti-poison du Québec, ou directement aller à l'urgence. C'est les professionnels de la santé qui sont les mieux placés pour les aider à ce moment-là.
Mais je suppose que si une personne, mais là, je dis ça, c'est relativement peu probable, mais si une personne avait plusieurs piqûres, c'est comme, mettons, tu avais 10, 12, 15, 20 piqûres de guêpe là, dans un nid, là, là, tu peux faire un empoisonnement, c'est plus à risque. Je suppose qu'il y a le même phénomène pour le venin du scorpion.
Ben, c'est un peu différent pour les scorpions que pour les guêpes. Les guêpes par lesquelles on se fait piquer, là, d'habitude, c'est des guêpes sociales qui vivent dans des nids qui sont composés de centaines, voire de milliers d'individus, dont le rôle est de un des rôles est de protéger le nid, protéger la reine.
Donc, parce que si le scorpion est plus individualiste dans son vécu, là.
Exact. Les scorpions sont solitaires, donc c'est rare qu'on en croise plus qu'un en même temps.
Je comprends.
Quand le scorpion se défend, ben il va piquer, puis ensuite il va chercher à se retirer de la situation dans laquelle il se sent en danger, parce que dans ce cas-ci, c'est ça, le scorpion se sentait menacé, donc il s'est défendu. Mmh. Donc voilà, c'est rare.
Il a mangé durant son voyage là en camion ou en bateau, je sais pas trop, probablement plus en camion, du Guatemala au Costco là, de Laval. Il a mangé du jus de banane et comment avait-tu, est-ce qu'il pique dans la banane? Comment il s'est nourri? De quoi il s'est nourri? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu là? Parce que là, il était pogné dans un petit tas de bananes en dessous d'un plastique.
Ouais, c'est ça. Le pauvre scorpion s'est probablement réfugié dans les bananes avant qu'elles soient emballées. Parce que les scorpions, c'est des arachnides, hein, c'est pas des insectes, des arachnides comme les araignées qui sont nocturnes. Donc la nuit, ils vont aller chercher la nourriture. Puis c'est des prédateurs, donc ils vont aller attraper des proies, les manger. Puis le jour, ils vont se réfugier dans des endroits sombres.
Des proies, c'est quoi pour lui, des insectes? Qu'est-ce que ça mange comme proie, des insectes?
Ouais, c'est des prédateurs généralistes, donc ils vont se satisfaire de ce qu'ils sont capables de trouver. Donc ça peut être des insectes plus petits qu'eux ou d'autres types d'arachnides comme des araignées. Puis ils vont s'en nourrir. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, je pense pas que le scorpion se soit nourri de bananes. Il a probablement jeûné pendant le trajet. C'est des animaux qui sont capables de jeûner pendant plusieurs jours si jamais ils trouvent pas de proie.
OK. Il y a des scorpions vraiment dangereux, là. C'est ça, là, vous dites celui-là, scorpion, banana scorpion, là, pas particulièrement dangereux. C'est quoi son nom en français?
On pourrait traduire ça comme scorpion banane.
OK, tout simplement. OK. Y en a des plus dangereux. Il y a certains scorpions dont on dit que le venin est carrément très dangereux, voire mortel.
Oui. Il y a à peu près un peu plus que 200 espèces de scorpions qui représentent vraiment un enjeu pour la santé des humains. Mais ça reste une petite proportion par rapport à l'ensemble des espèces de scorpions. C'est la même chose pour les araignées, d'ailleurs. C'est seulement une très faible proportion des araignées qui est vraiment dangereuse pour les humains adultes, en tout cas. Puis au Québec, on n'en a pas des scorpions, même si ça arrive qu'on ait des petites surprises comme ça. Puis, justement, si on en trouve dans les aliments qu'on achète, ben c'est important de le mentionner à la MAPAC ou à la CIA au niveau fédéral, là, la CIA étant l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, on peut déposer une plainte pour réduire les risques que des événements se reproduisent parce que les compagnies qui vendent leurs produits ici sont quand même tenues d'éviter que ça se produise. Là.
Mais comment?
En faisant des contrôles de qualité, par exemple, puis en faisant des inspections. Je suis pas inspecteur moi-même, là, mais c'est quand même la responsabilité des entreprises de le faire. Puis,
objectivement, présentement, en théorie, là, Costco a commis une certaine faute d'importer un scorpion à Laval.
Ah, ben là, je veux pas mettre la responsabilité.
Non, mais je veux dire, c'est pas supposé, là.
Ben, en théorie, il y a des mécanismes de vérification qui réduisent...
Le risque.
Tout est possible, hein. Il n'y a rien d'impossible, mais ça réduit quand même considérablement les risques. Pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs, parce que c'est un événement qui est isolé. Mais c'est important de le documenter quand ça arrive, de le rapporter aux autorités compétentes, comme la MAPAC puis l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Eh bien, soyons prudents quand on. Fait que dans le fond. Globalement, c'est pas quelque chose de ni fréquent, ni très dangereux. C'est plus anecdotique et étonnant pour le monsieur qui s'est fait piquer un doigt.
C'est surprenant, clairement, surtout pour un scorpion. Puis si jamais ça arrive aux gens qui nous écoutent, j'encourage les gens à garder le spécimen. On peut le mettre au congélateur pour le neutraliser. Vous pouvez prendre une photo, nous l'envoyer à l'insectarium, que ce soit un scorpion ou d'autres choses comme une araignée, on va l'identifier dans la mesure du possible. Puis je réitère, le plus important, c'est de le signaler aux autorités.
Aux autorités. André-Philippe Drapeau-Picard, merci beaucoup. Au revoir.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
On parle sport, Jean-François. Le Canadien en avait une bonne dans le corps hier, là.
Mais pas tant, hein, quand même. Il y avait surtout un bon début de match dans le corps où le Kraken avait un très mauvais début de match. On a pris les devants 4-0.
Sur 6 lancés.
Ouais. Mais Grubauer n'a pas été particulièrement faible. Il n'a pas été transcendant.
Non, mais la rondelle, tu sais, il y a des soirs que tu essayes toutes plein de bonnes affaires, tu frappes le poteau, tu lances à côté, ça veut pas. Hier, on dirait que la rondelle du Canadien cherchait le fond des buts, là.
Exact. Tout tournait pour le Canadien hier. Puis c'est sûr que, tu sais, le Kraken, c'est pas une grande équipe de hockey. Fait que quand tu prends les devants 4-0, ils sont à peu près comme nous, là. Fait que mettez ça à l'inverse. Il y a une équipe qui débarque chez nous, qui prend les devants 4-0 en première période. Les chances qu'on revienne sont minces, hein, mais ça a été la même chose pour le Kraken. Par contre, après, honnêtement, le Canadien s'est fait dominer. Là. On s'est fait doubler au chapitre des tirs au but. On a lancé seulement 17 fois. Puis, n'eût été de ce but refusé-là à 4-2. Écoute, peut-être, là, finalement, c'est resté 4-1, mais peut-être que ça aurait pu faire tourner le vent. Quel but de Matheson, le cinquième du Canadien, là, une montée d'un bout à l'autre de la patinoire. Là, il a mis vraiment les turbos en dessous de ses patins. Là, c'était de toute beauté. Et grande performance de Caden Primeau hier. Je sais que ça a l'air bizarre parce qu'on prend les devants 4-0. On devrait pas avoir besoin de notre gardien comme ça. Là. Il a été étincelant, Caden Primeau, hier.
Ouais. Et même, tu dis 4-0, mais le Canadien a compté là, son premier but, je sais pas, à 6-7-8 minutes. Mais dans les deux premières minutes, Kraken avait eu 4 chances de marquer. Si le Kraken compte un but en début de match, prend l'avance 1-0, ça change l'état d'esprit. Ça se peut que ça change tout le match, là.
Totalement, Mario. Moi, je l'écoute souvent en différé parce que ça me permet de passer les pauses puis ça va un petit peu plus vite. Puis je regarde, avant de me brancher, je vois ça, 3-0 Canadien à ce moment-là. Je me dis, hey. Puis là, je regarde les tirs au but. On dominait pas, là. Le Canadien dominait pas. Donc, effectivement, en début de match, si le Kraken prend les devants avec une équipe fragile comme le Canadien, peut-être que ce match-là tourne carrément. Mais hier, non seulement il a fait les arrêts, mais il était gros devant son filet. T'sais, on le sentait en confiance, ses déplacements étaient bons. Et en troisième période, il est allé voler un joueur du Kraken du bout de la jambière. Mon Dieu, j'oublie son nom, mais en tout cas, tout un arrêt, là, un arrêt digne des jeux de la semaine. Fait que Caden Primeau est peut-être en train de donner raison à Kent Hughes, finalement, d'avoir été si patient avec lui en début de saison, de ne pas l'avoir mis au balotage, parce que Marc Denis en parlait hier dans son reportage. Il y a eu peu de rotation. T'sais, il a pogné la COVID. Là, après ça, à Laval, il y avait trois gardiens. Il s'amène avec le Canadien, il y a trois gardiens. Monte, descend. Il n'y a pas eu énormément de départs. Mais le jour où il va en avoir de façon un peu plus régulière, ben, on ne sait pas son potentiel et où à Caden Primeau. Je ne suis pas en train de dire que c'est le nouveau Carey Price, là. Je vais juste dire qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se pointe pour Caden Primeau et le Canadien, qui peut là, assurément s'établir comme numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Ça, je suis convaincu. Numéro 1,
à voir. Prochain match du Canadien, par contre, qui joue contre une puissance de la Ligue et une puissance de la Ligue dans laquelle il y a un joueur en feu, mon cher.
Ouais, ça, c'est le genre de joueur que ça nous prendrait à Montréal, man. Un Québécois. Un Québécois qui fait bien les choses qu'on devrait aller chercher. Non, mais c'est Jonathan Drouin. Honnêtement, c'est une belle histoire, là, Jonathan Drouin.
Non, mais là, hier, il a été la star d'un match historique, d'une remontée.
Écoute, c'est 4-0 pour les Penguins de Pittsburgh au Colorado. Il n'y a personne qui aurait cru ça, surtout que les Penguins sont un peu amorphes dernièrement. 3 points pour Crosby. On se dit, bon, ben, ils l'ont échappé. Et finalement, remontée spectaculaire de l'Avalanche. 4 buts sans riposte.
Et là, dans ces 4 buts-là, un but, une passe pour Drouin, quand même.
Un but, une passe pour Drouin, un but, une passe pour McKinnon. Et là, la prolongation commence. C'est dans les premières secondes, la prolongation. Là, il restait 4 minutes quelque chose quand il a marqué Drouin qui va de toute une pièce de jeu déborder le défenseur, qui était Chris Letang, si je ne me trompe pas, déborder le défenseur des Pingouins. Et après ça, a déjoué le gardien avec une magnifique feinte. Alors, il est allé marquer son deuxième du match, 3 points dans cette rencontre-là. Puis, je regardais ses statistiques, ça lui donne 46 points. Depuis le début de la saison, en 60 quelques parties.
Mais ça, je pense qu'il y en a. C'est pas-tu qu'il y en a 12 à ces 9 derniers? Il y en a plus qu'un point par match là, depuis quelques matchs.
Effectivement. Effectivement. C'est mars, vraiment là. Dernièrement que ça a débloqué pour Jonathan Drouin.
Mais on est content évidemment. Pour lui, sincèrement. Là, on fait des farces, il était avec le Canadien et il faisait rien, des grands bouts. Mais moi, je suis content pour lui. On attendait ça. On espérait. En fait, on espérait quasiment plus ça.
Sais-tu quoi? On dirait qu'il est pas fait pour jouer avec la pression. La pression d'avoir été un choix si tôt au repêchage. Après ça, la pression de Montréal, la pression de son gros contrat. Tout ça a eu l'air de l'étouffer. Là, il se présente là-bas. Il y a plein d'autres vedettes. Il coûte juste 1 million. Fait que lui, là, tout ce qu'il apporte, c'est du bonbon. Puis là, tranquillement, la confiance revient. Je veux dire, le talent a toujours été là pour Jonathan Drouin. Et écoute, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui pour l'an prochain. Parce que
Sauf qu'hier, en revenant là, quand même dans la chambre des joueurs avec le but gagnant, il devait être content. En dedans de lui, il doit avoir l'impression qu'il accomplit quelque chose.
Grandement.
Ouais. Hey, Jean-François, merci.
Salut,
à demain. Merci à vous. À demain.